I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Victor, plus connu sous son nom d'artiste Panteros 666, et avant ça, sous les traits du personnage Camelto. Victor a une histoire assez peu commune. Il découvre la batterie par hasard à 7-8 ans dans sa petite banlieue de Lille, devient complètement accro à son instrument, finit par rentrer à Sciences Po Lille en ayant trouvé le cheat code du concours, il en parle d'ailleurs assez brillamment. Il invente, en passant parce qu'il s'ennuie un peu, ce personnage génial de Camelto qui lui ouvrira les portes des médias. Vous pourrez trouver plein de liens dans les notes, je vous mettrai tout ça. Et enfin, à un moment donné, il finit par devenir DJ, ça c'est un mot qu'il déteste, mais aussi et surtout producteur de musique. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vie trépidante de Victor, qui est également en train d'écrire un film avec un producteur très très connu de cinéma, parce qu'après tout, pourquoi pas. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez commenter cet épisode sur www.histoireavecunsdesucces.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Victor. Merci à vous et bonne écoute. Putain, mais t'es stylouche.
Quoi ?
T'es trop stylé, quoi.
Bah...
T'as upgradé, j'ai l'impression, ton style encore depuis qu'on s'est vu, ouais.
Ah ouais, peut-être. Bah, il y a ça.
Et j'ai perdu plein de poids aussi.
Du coup, je fais plus
star.
C'est pour un rôle.
Quoi ?
C'est pour un rôle.
C'est pour un rôle. Ouais, un rôle de composition qui s'appelle l'existence, ouais.
Est-ce que c'est. Parce que t'as quel âge là ? T'as 30.
J'ai eu 33 cet été.
Ah oui.
Ouais.
C'est ça, tu crois ? Qui fait que tu perds du poids ?
Non.
C'est la remise en question de.
C'est la remise en question. Ouais, c'est vu que tous les 10 ans je fais la crise décennale. Donc c'est plus ça, ouais. Et puis okay. Ça faisait depuis longtemps que quand j'étais petit j'avais des grosses joues et je voyais tous mes plein de potes minces et la minceur était tellement valorisée et tout le reste c'était vraiment montré du doigt quoi, que du coup depuis que je suis tout petit j'étais là un jour j'aimerais quand même vraiment être mince
et t'as
mais genre être mince genre fin tu vois,
ouais.
Genre après on me disait mais si t'es mince et tout tu vois et j'étais là mais non parce que dans ta tête j'avais toujours des bonnes joues où tu vois les tantes elles prennent les joues elles font là c'est plus possible là plus personne m'approche
plus personne peut t'attraper les joues
ouais
je suis plus cute
du coup
t'as fait comment pour perdre du poids
quoi
t'as fait comment pour perdre du poids
bah vélo tous les jours je fais que un cheat meal par semaine là tu sais
ah oui.
Donc je me fais genre...
Tu fais un vrai régime en fait, enfin,
t'as
changé
régime,
ton alimentation.
Du coup je discipline vachement aussi, enfin ça faisait longtemps, mais ce que j'achète, tu vois, parce que la décision elle se fait dans le portefeuille, n'est-ce pas ? Du coup dans le... Donc parce que tu vois c'est genre si j'achète un paquet de gâteaux et qu'il est chez moi,
ouais.
Il suffit que j'ai un petit saut d'émotion, je sais pas quoi, et je vais le finir quoi.
Je suis d'accord.
Et donc du coup là c'est la tôle. Le sanatorium chez moi et comme ça au moins je suis genre et ah ouais et dès que j'ai envie de manger je fais genre des pompes, des abdos ou j'ai acheté genre des élastiques à la con à 10 balles chez Deka, des trucs pour les bras et tout voilà
ce genre de des trucs. Pinces là pour
ouais les pinces pour muscler de psychopathe les ouais
pour devenir un warrior
pour ouais hyper bien casser des noix tel Arnold Schwarzenegger
ok. Bon, tu sais qu'on a lancé une interview là.
Ok, bah je m'en doute à chaque fois que, à chaque ça, fois hein. que Flo est aux manettes, il, fait... il appuie sur le bouton rec plus vite que son ombre.
Bon, avec Victor. Comment tu te fais appeler en fait? Est-ce que les gens savent que tu t'appelles Victor?
Tous mes surnoms. Ouais, Victor. Ma maman m'appelle Vic. Mes potes m'appellent Victor. Hier, j'ai vu mon pote avec qui j'étais en prépa qui m'appelait Vactor. Et qui d'ailleurs, vu que c'est le podcast numéro 10 dans ma team, c'est ça? Dans
ouais,
mon podcast.
Ça s'appelle Histoire de succès maintenant.
Histoire de succès.
J'ai
ah
changé
ouais,
parce
t'es...
que. En fait, les gens, ils comprenaient pas. Que...
Ils font pas, ils ont pas la ref.
C'est Zep, tu vois, que j'ai eu en interview.
Ok.
Et qui s'en foutait de, du foot ah et du.
C'est fou comment je suis. J'étais fan de Zep et de Titeuf.
Ah bah, t'écouteras l'interview, elle est trop bien. Vraiment.
J'étais vraiment. Je trouve que ce gars, il est super intelligent.
Il est génial. Mais en fait, ouais, il connaît rien au foot, il connaît rien au rap. Il m'a dit, mais c'est quoi le truc? C'est quoi la ref? Donc je lui ai expliqué, il m'a fait oh, ok, mais c'est quoi numéro 10? Donc après je lui ai
ah,
dit
même
bah, c'est...
pas ça ouais,
non.
Ouais,
il
ah,
dit
ouais.
Bah, vraiment le foot, moi je connais pas. Donc j'ai fait ah non, c'est nul comme nom, il faut trouver un autre nom. Alors je veux que ça prête, ça parle à tout le monde, tu vois. Donc j'ai changé. J'ai appelé ça Histoire de succès, qui est un peu plus proche de mon podcast.
Ça s'appelle en fait, c'est drôle parce que c'est Success Story en mal, un
yes
peu mal traduit.
Tu l'as?
Ouais, je l'ai.
C'est mais... Mimi qui l'a trouvé, Histoire
ouais,
de succès,
ouais.
Je trouvais ça marrant.
Mais faut le prononcer genre histoire de succès.
Histoire
comme...
de succès.
Comme ça, ouais.
Donc ouais, on va parler un petit peu de ta vie, ton œuvre. Parce que donc on t'a reçu avec Mimi dans un épisode du Boys Club.
Exact.
Je mettrai le lien aussi pour.
Qui était aussi, c'était déjà un truc qui a lancé plein de remises en question, quoi.
C'est vrai?
Bah ouais.
Ça veut dire quoi?
Bah je sais pas en fait.
je sais pas. Les gens non plus, ils vont pas savoir.
Si si, bah. En postant ça, en écoutant les autres, je me suis vachement intéressé à toutes les questions de virilité, masculinité.
Fais gaffe à bien parler.
Je suis devenu beaucoup plus critique sur tout ce qui est-ce que c'est moi ou une construction sociale, la normativité,
ah, oui,
tous les schémas, tout, un peu genre, tu vois, la pilule de Morpheus dans Matrix.
Yes. Donc en fait, le Boys Club, c'est un podcast qu'on a avec Mimi depuis peut-être un an et demi, deux ans maintenant, où on fait parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Donc Victor, t'étais passé il y a peut-être un an, je pense.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques mois, tu m'avais dit, ça m'avait mindfuck en fait de passer
là. Ah, j'étais
là.
Chamboule.
J'étais ouais. Chamboule tout.
J'étais chamboule et du coup, j'aime bien être chamboule.
Ouais.
Et en fait... Pour être chamboulé, il faut faire une forme d'effort à chaque fois, je pense. Mm. C'est vrai qu'il faut être prêt, c'est des paliers et tout, et puis ça vient par grappe comme le raisin. Ou les comment ça s'appelle ? L'escadron de France. Les avions, les rafales qui font des drapeaux tricolores en fumée au-dessus des Champs-Elysées.
Ouais.
La brigade de France.
C'est l'escadron, non ? C'est pas ça ?
Non. La brigade française.
Je sais pas.
Oh,
comment,
bah, de toute façon,
les enfin, on les voit.
Pour les avions de chasse, c'est beau, mais c'est pour tuer des gens et tout, donc stop.
Sauf quand ça fait des belles couleurs dans le ciel.
Des gerbes.
Des gerbes.
Des gerbes tricolores, ça suffira en fleurs, voilà.
C'est beau.
Ouais, mais du coup, ouais, si ça va pas mal. Chamboulé où je m'étais dit que en fait. T'obéissais de manière candide à des codes et des schémas qui aujourd'hui sont plus vraiment pertinents avec l'évolution des technologies, la fin de tous les vieux modèles dont on sait tous qu'ils sont pas géniaux. Et donc maintenant je suis passé de quelqu'un qui était un peu dans la fin d'un cycle après ce podcast à quelqu'un qui est en début de cycle, donc qui est méga angoissé mais qui reste toujours un éternel optimiste en me disant ah bah il y a plein de trucs à expérimenter.
T'es angoissé par quoi de cela?
Quoi?
T'es angoissé par quoi?
Bah parce qu'en fait depuis j'ai atomisé ma comfort zone. Voilà.
Comme quoi?
Bah après j'atomise souvent mes comfort zones.
Oui, j'allais dire, on va reparler de ton parcours mais ça a l'air d'être un truc.
Là j'ai atomisé j'avais acheté un appart à Paris, j'étais en couple depuis 10 ans, etc. Et j'ai un manager depuis 8 ans, un groupe d'amis et tout. Et j'ai à peu près tout lâché, quoi.
Pour
repartir seul.
From scratch.
From scratch, comme à mes 19 ans, tu vois. Comme genre étudiant, genre seul face au monde et on voit ce qui se passe.
Waouh. On va en reparler.
Ouais.
Tu vas nous raconter tout
bon,
ça.
Bon, après, je suis pas vraiment seul.
Non, mais.
Ni face au monde. Je pense c'est une image, je suis pas genre, il y a pas moi et 10 milliards d'humains, c'est beaucoup trop égoïste, même si je le suis pas mal, mais voilà.
Bon, je pense que vous avez compris un peu le concept avec, avec Victor. Donc ton nom de scène, c'est Panthéros.
666. Ouais.
Comme le diable.
Que j'ai tatoué sur le cul désormais.
Non.
Si, si.
Pourquoi t'as fait tatouer ton pseudo sur...
Bah, je sais pas.
Sur ton cul.
Je voyais, j'avais maté une vidéo porno où le gars il avait 666 sur le cul et vu que c'est dans mon pseudo depuis hyper longtemps, j'étais là, ah ouais, trop bien. Voilà.
Ah donc t'as fait. Non, que 666.
Que le 666. Ah ouais, okay, Panthéros. C'est hyper drôle, ouais.
Oui. On vous mettra pas une photo.
Je peux montrer mon cul tout le temps.
Bon, Victor, et ce podcast, on va parler un peu de ton parcours, d'où tu viens et tout. T'as fait plein de choses. On se connaît depuis un petit moment, toi et moi, parce qu'on s'est découvert à l'époque où t'étais encore étudiant à Sciences Po.
Ouais.
De Lille, donc.
C'est ça.
Où tu faisais Camelto.
Oui.
Donc, Camelto, on va en reparler, mais c'était un personnage que t'avais inventé, qui était une forme de. Qui faisait des commentaires de texte en vidéo sur Dailymotion à l'époque, avec ta webcam et ton ordinateur nul, là, où t'avais écrit des commentaires de texte. T'avais écrit des commentaires de texte de Molière, de Baudelaire, etc.
Ouais,
etc.
Toute la littérature classique de Maupassant, Stendhal, et puis anglaise aussi.
Ouais.
Oscar Wilde.
C'est comme ça que
et Albert Camus, et du coup, c'était mes trucs préférés, tu vois, entre le romantisme et le nihilisme, c'était mes trucs préférés. Enfin, l'existentialisme, quoi.
Donc, je découvre un jour, par hasard, cette personne folle déguisée en petit gars de la Thèse.
Je faisais Lascar Rural, en fait. C'était ça, c'était le personnage, parce qu'en fait, t'inventes jamais des personnages. Bon, après, tout est dans l'hyperbole et l'exagération quand t'inventes des personnages, mais là, c'était... Moi, j'ai acheté du shit à des lascars ruraux, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des petits villages de max 500 habitants.
Donc tu viens du nord, pour expliquer un petit peu.
De la frontière belge, ouais, où c'est vraiment genre tout plat, tout gris, avec des vaches qui huppent à perte de vue et des petites maisons en briques assez glauques.
Briques rouges, bien sûr.
Briques rouges assez glauques, bas de plafond, avec vraiment des mamies qui attendent les camions qui vendent les godes et les escabeaux en plastique. Chrome Vanadium, mais si, est-ce que tu regardes ça quand t'es petit, tu fais c'est quoi ça?
J'aime pas cette
réplique. Je t'expliquerai plus tard. Tu sais, c'est des trucs reculés, il y a des camions qui passent et qui font genre outils, vêtements. Ah, ils vendent des trucs, ils déposent des catalogues avant.
Ok, mais pourtant on n'a pas grandi très loin, je pense.
Non, mais je pense que c'était juste un peu plus reculé dans les campagnes parce qu'il y a plein genre d'agriculteurs, de grand-mères esselées et tout, et je pense que c'était avant. La grande folie urbaine des zones d'activité commerciale avec des éléphants bleus, des car wash et des magasins bio, des trucs de jouets horribles là. Des boîtes à chaussures.
Il y a une question que j'aime bien demander. On reviendra après sur les sextoys vendus par camion, si tu veux.
Il était écrit « Garantie vente discrète au camion ».
Oh là là. T'avais quel âge?
Bah, je sais pas, genre 12 ans.
Tu te demandais pas trop. Enfin, de cette-là, tu te disais c'est quoi ce bordel?
Bah, j'étais des bites en plastique, mais tu sais.
Bon, attends.
Donc, c'est un peu off-topic, comme disent les Anglais.
Ah non, mais j'adore off-topic. Mais c'est juste, pour te lancer un peu, j'aimerais bien savoir à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans. À quoi ressemblait Victor quand il avait 7-8 ans?
Du coup, c'est marrant, j'ai un frère et donc je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est de l'inné, qu'est-ce qui est de l'acquis? C'est une question que je me pose de base 5 fois par jour de toute façon.
Oui.
Pour tout. inné, acquis, c'est un filtre super drôle. Donc je me demandais déjà, en plus après je suis toujours fan d'Émile Zola, étant toujours fan de littérature, et je pense qu'on est vraiment le produit de son environnement parental et social. Et il y a peu de gens qui peuvent s'en affranchir. Parce que tu reproduis toujours, soit dans ce qui est de l'acquis, c'est-à-dire que c'est des comportements sociaux de ton environnement, soit de l'inné, l'ADN de tes parents. Donc du coup, après, c'est, tu vois, ça peut être de l'ADN, des traits de caractère qui viennent de je sais pas qui, donc c'est les mystères de la génétique, tu vois, qui sont assez cool. Et d'ailleurs, à ce sujet, trop marrant l'épisode de South Park sur tout le monde dit que je suis pas blanc, j'ai du sang libanais, des trucs comme ça. Non, mais c'est tous les gens qui font les tests génétiques à 1000 euros,
ah,
et
oui,
on
oui.
dit que tu viens de sel, de trucs comme ça, et du coup les gens deviennent ouf en disant mais Comme ça, c'est bien, ça peut faire évoluer peut-être le concept de race et faire changer les gens, de genre arrêter de les faire débloquer sur, que sur la couleur de peau et voir faire tout comme un qu'on truc est sociologique, quoi, tu vois.
Faire prendre conscience qu'on a un melting pot de plein,
bah,
plein de
ouais,
choses.
Que c'est, tout est de la socio de toute façon, donc stop. Et du coup, bah, moi, niveau socio, je pense que j'ai toujours été très curieux et passionné, parce que ma mère était passionnée de cheval. Et si elle m'a transmis un truc, qui est pas l'amour du cheval, bon, je l'usais pour lui faire plaisir, l'équitation. C'est des braves bêtes, hein, je dis pas. Mais... j'étais pas vraiment à fond dedans, quoi. J'étais pas genre, ah, j'ai envie de parcourir la terre à cheval. Même si j'ai aimé quelques westerns. Mais, et du coup, j'étais très passionné, donc à 7-8 ans, j'avais déjà des obsessions et du coup, je faisais de la batterie tout le temps.
Ah, t'as commencé la batterie
à 6 ans.
Aussitôt, ok.
J'ai vu un jour un street drummer dans la rue.
Ah ouais?
Qui jouait sur des casseroles et des trucs. Et j'ai aucun musicien dans ma famille. Et j'ai commencé à prendre des seaux, des poils, des cuirs en bois. Je me suis fait une mini batterie comme ça. Et je passais une heure par jour dessus. J'ai pas trop de souvenirs de ça. Peut-être un flash. Et mes parents me disaient, vu que je passais une heure là-dessus à frapper sur ces casseroles, ma mère faisait la blague à ses amis. Oh, tu te rends compte, il casse tous mes seaux. Il frappe partout, il revient de l'école, il frappe, il casse tous mes seaux. Je dois racheter des seaux toutes les semaines à la foire fouille. Et j'étais là, ok. Et du coup.
peut-être achète-moi une batterie au bout d'un moment.
Du coup, peut-être qu'il faudrait lui acheter une batterie. J'étais là, sans blague. Donc, à force de tout niquer, c'est dès que je passais sur un truc, je faisais tout. Ah, c'est marrant et tout.
Mes potes batteurs, ils font ça tout le temps, ils tapent partout.
Ouais, tu tapes partout. Et donc j'ai commencé par ça, et donc mes parents se sont dit, ah, bah, faudrait peut-être le mettre à la batterie. Et vu que ma mère, elle était passionnée de cheval depuis qu'elle est toute petite, c'était sa life, tous ses amis c'est le cheval, elle parlait que de ça, il y avait des tableaux de chevaux partout. Et du coup je trouvais ça bien, je trouvais ma mère plus heureuse que plein d'autres gens parce qu'elle a la passion du cheval. Donc je me suis dit, c'est bien d'avoir une passion, c'est clair. Parce que du coup elle est hyper pro, elle voit un cheval, elle fait, oula, lui il est boiteux, oula, lui il est resté auprès... un mois de trop. Et tu sais, elle arrive à dire des trucs comme ça. Je disais, ah, je veux trouver un truc comme ça dans la vie où t'es tellement pro que tu...
Oui.
Que d'un regard...
T'as une vraie expertise.
T'as
quoi.
Une vision transparente de toutes les infos que t'as devant toi.
Ouais,
et du coup, moi, c'était pas le cheval et c'est devenu la batterie. Voilà.
7-8 ans, donc.
Et à 7-8 ans, du coup,
j'ai... En fait, ils te mettent où? Ils te mettent dans un conservatoire ou un truc?
J'étais
comme
trop
ça.
Jeune pour le conservatoire. Il y avait une école de batterie à Lille d'Adriano Zampieri qui a dit « Bon, il a 7 ans, bah très bien, ils le prendront pas au conservatoire, mais c'est bien de commencer jeune. S'il est chaud, il a le sens du rythme. » Il m'a mis derrière une batterie, j'avais des étoiles dans les yeux. Et il a dit « Bah, on va le prendre. » Après, il m'a trouvé une batterie d'occasion, un truc tout pourri, mais j'étais dans ma cave et j'ai passé... Du coup, j'ai déjà très tôt, il y avait une cave à la maison.
Tiens, oublie pas de mettre ton...
J'ai passé un mois à la rénover, à mettre des boîtes d'œufs, tout. Et tout.
Ah oui,
et je me suis fait une sale batterie. J'étais déjà dans ma man cave.
Et donc, comment tu faisais? Tu mettais des draps au fond des...
Ouais, j'ai mis des draps, des matelas pour insonoriser. Tu sais, je faisais... j'avais la lampe. J'avais mis une intercalaire de couleurs pour que ça fasse une ambiance un peu rock, disco, bleu, n'importe quoi.
Mais t'avais 8 ans, c'est ça?
9-10 ans, ouais. Et du coup, c'était... Voilà, je vivais que pour ça. J'attendais la fin des cours pour aller faire 2 heures de batterie. Et après, j'étais calme.
Waouh.
Voilà.
Et avec le recul, tu te rends compte... Enfin, tu sais ce qui t'a amené à la batterie comme ça?
Non.
Tu sais pas, juste la rencontre de ce gars dans la rue, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment le hasard du destin. La prédisposition, je sais pas d'où elle vient. J'ai zéro zikos dans ma famille et j'en ai zéro. C'est-à-dire, je n'ai même pas créé une vocation. C'est tous des... Ils ont tous fait genre droit ou ils veulent faire des écoles de commerce et tout. Ils sont vraiment hyper dans un schéma super normatif. Et moi, vu que j'étais passionné, j'ai toujours dit je m'en fous, même si ça va être dangereux, je veux vivre de ma passion. Voilà.
Donc, ok, batterie donc.
Ouais.
Et puis, bah, tu dois être bon élève à l'école.
Heureusement, j'ai de la chance... mon père, c'était un bon geek de bouquins et tout, ouais. Et fan d'histoire. Du coup, c'était nobody de point, mon père. Ah tiens, c'est là où le maréchal Foch, il avait dit à ses troupes, attaquer la guerre, c'est l'attaque. Ou tu vois, il sortait des trucs comme ça. J'étais là, ok. Du coup, il était assez... Il y a de très bonne culture G. Du coup, j'avais une bonne culture G.
Parce que il te filait des refs à lire ou
non? Ah non, pas du tout.
Ah oui.
Non, par contre, mes darons, ils étaient comme ils étaient. Et moi, très vite, je me suis dit, ok, ils ont des aspects super relous. Mon père, il est colérique et il était un peu dépressif après un dépôt de bilan, je pense, pendant très longtemps. Et il s'engueulait tout le temps avec ma mère. Il lui mettait tout sur le dos. Et du coup, ma mère, elle, j'étais plutôt élevé par ma mère, on va dire. Qui s'est mis à travailler, qui s'est émancipé et tout, telle une femme des années 80 avec les cheveux courts, un blazer et qui écoutait George Michael dans une Golf 2. Voilà. Et du coup, j'étais là, yes.
C'est vrai ou pas?
Ouais, ouais. Tu sais, les femmes du Nord qui ont cru épouser un bon parti. Un gars blindé qui allait avoir une maison au Touquet, un 4x4 et tout. Et rien foutre à la maison en buvant du rosé, en ouvrant le lave-vaisselle avec le petit truc en bois là, de la cuisine de Bourges. Et ben ça c'est pas du tout comme ça, fait dérapage de ouf. Vu que mon père était dans le textile, il y a eu un dépôt de bilan, elle m'a raconté 2 ans après ma naissance. Et du coup elle pensait épouser un bon fils de famille bourgeoise du Nord et bra.
Bah le textile dans le Nord...
Ça fait deux petits coups sur le crâne, dans la nuque, aïe, et c'était fini. Ouais.
Textile dans le Nord, dans les années 80, compliqué quoi.
C'est ça, ouais. Et je pense qu'il s'en est jamais vraiment remis. Ouais. Et du coup, là, ça a été problème de thunes tout le temps. Du coup, déjà à 6-8 ans, j'avais conscience de ça. Que la thune, c'était un problème. Ça empêchait mes parents de s'aimer, ils s'engueulaient tout le temps. Il y avait le problème des impôts, j'avais déjà vu les huissiers venir prendre la télé. Notre console avec mon petit frère et tout.
Merde, putain. C'est pas vrai.
Parce que mon père, il avait pas payer des trucs, tu sais, il planquait les enveloppes et tout, il était pas sérieux là-dedans, donc du coup j'ai dit très vite je vais devoir gagner du blé pour éviter de pourrir une situation amoureuse et un foyer et hyper peur de l'administration et tous ces trucs quoi.
Voilà. Wow. Et tu penses que ça t'a structuré encore aujourd'hui, c'est
ça ? De souvenir, je sais pas quand j'ai eu conscience de ça, mais c'est venu très vite.
Okay.
J'étais super lucide là-dessus, ouais.
Ok.
Donc ça m'a structuré, ouais, à me dire, et puis mes parents, le seul truc dont je me souviens de mon éducation, c'est ma mère qui disait, si t'as des bonnes notes à l'école, tu fais ce que tu veux. Du coup, ça a toujours été le contrat social entre nous.
Donc t'avais des bonnes notes à l'école?
J'avais des bonnes notes, c'était pas oufissimo, je faisais pas grand chose.
Voilà, tu faisais partie, je pense, de ces élèves un peu brillants?
Non.
Tu foutais un peu le bordel?
Un peu.
Ouais, c'est ça.
Pas brillant.
Si, t'es brillant.
Non.
C'est sûr que t'étais brillant, mec, à l'école.
Mec, trop pas. J'avais 5 de moyenne en maths.
Oui, mais parce qu'en fait, tu t'en foutais.
J'aimais bien la... Maintenant, je suis genre Attends. Vraiment fan de... Là, tu me dis... On me dit aujourd'hui... Ah bah, tiens, ton obligation, c'est de te poser sur une chaise et d'écouter un papy parler de la guerre froide. Je ferais genre, ah yes, c'est le plus beau jour de ma vie. Avec le recul.
Oui, c'est sûr.
Tu vois, on me dit, ah, on va t'apprendre ce que c'est que Pierre Bourdieu ou des cours d'histoire ou de géographie. Alors aujourd'hui, on va voir les Égyptiens ou alors l'Empire austro-hongrois et tout. Enfin, je kifferais ça à fond. Mais je m'en foutais un peu.
Au collège
et c'est au lycée, au collège et lycée.
Au lycée
peu.
Aussi
J'aimais bien la culture G, l'histoire, la géo, la philo, j'ai bien aimé. Mais j'avais entre 12 et... Tu vois, j'ai eu mention assez bien.
Ouais.
Assez bien.
Mais oui, juste ce qu'il faut.
Juste ce qu'il faut. Mais j'ai jamais tapé dans la viande à 5h du mat, comme j'ai fait après, quoi.
Comment ça?
C'est une expression pour dire charbonner, tu vois.
Comme...
J'avais pas comme trop Rocky, la dalle. J'étais là genre, c'est bon, j'ai des bonnes notes. C'était un lycée privé, catho, il y avait que des blancs et tout. Et donc, en gros, j'étais un peu... Je me laissais flotter comme ça. Et puis après, j'avais les cours de batterie. J'étais obsédé par la musique. Donc, dès que je revenais de cours, j'allais faire direct de la batterie. Et je faisais le strict minimum pour mes devoirs.
Ouais.
J'écoutais bien en cours et j'ai eu mention assez bien.
Ce qui t'a permis de pouvoir t'en sortir?
Bah, je me suis retiré les watts du cul l'été après le lycée.
Ouais, mais t'avais déjà cet esprit critique que t'as là aujourd'hui, ce recul, t'étais un peu une sorte d'ovni chelou dans la classe déjà au lycée?
Je sais pas trop, faudrait que je demande à mes potes, je sais pas trop.
T'as encore des potes du lycée là?
Ouais, plein.
Ouais.
Bah tous mes potes de groupe de musique, tu vois, c'est éternel.
Ah yes.
En fait, je vivais quand même pour le week-end, live for the weekend comme on dit en son dance floor.
Mais
Mais donc, t'avais quand même monté des groupes.
Ouais,
c'est ça.
Bah, vu que je faisais de la batterie très vite.
Bah, tu pourrais faire de la batterie juste pour toi, quoi.
Dès qu'il y a vu, j'étais en cinquième, je me souviens, j'avais des potes un peu par défaut. Mm-hmm. Ils parlaient que de meufs, de scooters et de rap. IAM à l'époque.
IAM, bah oui.
Et moi, je m'en foutais de ça. J'étais là-bas, de toute façon, avec les meufs, bah, on en a parlé. J'étais là, j'étais timide. Je savais pas. Mm. Je me faisais des romances que dans ma tête. En mode romance écrivain hongrois. qui rêve d'une meuf pendant 2 ans sans oser la regarder, tu vois. Ou en faisant juste une blague de Will Ferrell ou en trébuchant devant elle, tu vois, vraiment ce truc-là. Du coup, j'étais là, bon, ouais, c'est pas le moment. Mm. Et du coup, très vite, dès que j'ai vu 2 gars qui ont redoublé, qui avaient des Eastpak, des pantalons qui dépendaient jusqu'au cul, qui sentaient la weed et qui écoutaient du métal, et j'ai fait « Ah yes !» Ça, c'est, du coup, c'est devenu mes méga potes, quoi.
Ok, t'écoutais du métal, toi, à l'époque,
ouais.
Déjà ?
Ouais, ok. Et c'était du coup, tous les week-ends, on fumait des bédos en écoutant Pink Floyd et en faisant de la musique, voilà. Du coup, ça, c'est
trop collège.
Bien. Dès le collège.
Oh, si vous êtes jeune,
après et après
pas trop taper dans la drogue trop tôt.
Après
quoi.
Moi tout ça, ça m'a très vite fait peur.
Ouais. Fais un message de prévention
j'ai,
plaît,
oui,
sur,
justement,
sur la drogue présentement.
Justement, je pense que la tolérance zéro, c'est ridicule. Il faut être conscient que du coup, bah justement, moi je voulais conserver mon indépendance et être sain d'esprit. Donc très vite, je me suis dit, ok, le week-end pour faire la fête, pourquoi pas, pour vivre des expériences où tu te mets un peu à contre-temps de la société, de toi-même et tout, en étant un peu avec l'alcool, les drogues et tout, mais c'est des paradis artificiels. Mmh. Le paradis, tu veux le vivre tous les matins quand tu te réveilles. Oh. Tu veux pas te prendre un truc d'une substance, tu vois, c'est ridicule. C'est vraiment court-termiste et ça te bousille le cerveau. Et ça fait du mal à toi, à ton entourage et tout. Donc très vite, je me suis dit, c'est con. Et de toute façon, dès que mon père il a vu que je commençais à fumer des bédos, il m'a filé une bibliographie. Il m'a lu ses bouquins. Et c'était Naked Lunch, enfin des trucs super gore sur la drogue, le sexe et tout. Où tout le monde finissait par mourir.
T'as montré Trainspotting.
Ouais, non, mais c'est ça. Il m'a direct montré les œuvres les plus hardcore sur la drogue en disant, mon petit gars, j'ai connu les années 70. De manière hyper sérieuse, voilà dans quoi tu t'embarques. Et là, j'ai lu tous les trucs de la Beat Génération et tout, et je me suis dit, ah bon, d'accord.
Mais c'est cool quand même, tu vois, tu disais ton père, il te faisait pas lire. Il t'a quand même
filé
des bouquins.
Ça, ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il savait pas comment parler de la drogue, ouais. Et du coup, je me suis forgé ma propre opinion là-dessus. Du coup, très vite, j'ai mis le haut là, et je n'ai fumé que, genre, vraiment de temps en temps le week-end.
Ok.
Mais mes potes étaient grave à fond dedans, ils se sont fait des dreads, ils écoutaient du reggae tout le temps. Mais moi, quand je revenais chez moi, j'avais pas ma chambre.
Comment ça ?
Bah, mon père, on avait acheté une maison en ruine, et il a tout rénové tout seul. Du coup, toute la famille, on était quasiment dans une pièce chauffée par un poêle à bois, tu vois. Du coup, je pouvais pas sortir et fumer mon petit bédo comme mes potes dans leur maison de lotissement, tu vois.
Ok.
Du coup, au final, le fait d'avoir cette petite casserole au cul, ça m'a sauvé de ce côté-là, ouais.
Putain. Donc là, t'es au collège, c'est ça ?
Donc du coup, à 6-8 ans, je me réfugie grave dans la zik pour kiffer. Ouais,
ok.
Déjà, ouais.
Et ouais, je te demandais, mais t'étais un peu déjà un ovni, genre au lycée aussi ? Tu dis que tu t'en souviens plus ?
Ouais, je pense que oui, ouais. Je mettais des Santiago. Donc ouais, il faut pas grand-chose dans un lycée.
Il suffit juste de mettre des Santiago.
Parce qu'en fait, j'avais de la famille qui était aux États-Unis. Qui se sont barrés du Nord dans les années 80 parce qu'il n'y avait pas de taf. Et une personne qui connaissait a dit « Venez aux États-Unis, là-bas, il y a trop de taf. » Et ils sont partis, ils ont monté des restos là-bas, ils ont fait un BEP cuisine, ils ont monté des restos. Du coup, moi, dès l'âge de 13 ans, ma grand-mère était partie là-bas aussi. J'allais tous les étés là-bas avec ma grand-mère et j'ai appris la valeur travail où c'était genre « Tiens, tu me nettoies 100 assiettes et je te donne 10 dollars. » Et je touchais des dollars en cash. Et j'ai pris le goût du flouze comme ça, ouais. Parce qu'en plus, mes parents me filaient pas trop d'argent de poche s'ils étaient un peu à la dèche.
Ouais.
Du coup, je me faisais mon argent de poche comme ça pour m'acheter des fringues et tout. Et du coup, j'allais m'acheter des Santiago,
je t'imagine
des trucs tellement trop étranges, une veste en faux croco jaune. Et du coup, je débarquais à chaque fois à la rentrée avec ça et j'étais « Yes, j'ai vu mes Santiago » et les gens, ils disaient « Ah, cool !» Et vu que mes potes, ils avaient des dreads, ils écoutaient du reggae, je pense qu'ils étaient OK, mais sinon, ouais, je pense qu'il y avait un petit décalage, ouais. Mais je détestais les bourgeois du Nord.
C'est-à-dire ?
Ouais, on était un crew un peu de 6-7 rebelles, tu vois, qui justement, vu qu'on fumait des bédos, on écoutait du métal. Mais moi, j'ai toujours été même un espion là-dedans. J'étais là genre, OK, on fait ça, on fume des bédos, on écoute des métals. Mais moi, je veux des bonnes notes en cours. Je veux pas être en échec scolaire. Ça me fait super peur d'être en échec scolaire. Le redoublement, c'est un cauchemar.
Donc, t'étais quand même un bon élève.
Donc, oui. En fait,
t'es un peu... Pas un... Ouais, un espion, ouais, c'est marrant. C'est marrant, un espion.
J'étais un peu un espion.
OK.
Eux, ils avaient un côté... J'étais trop admiratif d'eux parce que c'était un peu des cramés de la vie. Tu vois, ils répondaient aux profs. Des fois, ils sortaient des insultes et tout. J'étais là genre, ouais, ils sont trop thug. Et moi, j'étais pas trop thug life. J'avais direct des bonnes rambardes de la sécurité des gouttières de bowling, tu vois.
En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, t'es fringué comme t'es fringué, etc. Enfin, tu vois, bon, les gens peuvent pas le voir, mais t'as... Bon, je renverrai vers...
Je suis pas color shy, comme on dit.
Je renverrai vers cette vieille vidéo qu'on avait fait ensemble, mais qui était un street style qui mériterait qu'on en refasse un nouveau un jour. T'avais des leggings... Si tu te souviens, tu racontais que t'avais des...
Bah, je me souviens, maintenant, c'est genre... Ouais, maintenant, c'est un acte politique, mais j'allais au rayon femme pour ma vie. Parce que chez les hommes, il n'y avait rien qui me plaisait. Tout était gris, marron, célio. C'était abominable.
Et en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que t'as cette attitude-là, enfin, t'as ce style-là de fringue. Et en même temps, alors, j'allais pas dire normé, mais en fait, t'es sage par plein d'autres aspects, tu vois.
Je suis sage, ouais. Ouais. Bah, c'est normal, c'est parce qu'il faut pas. Faut voir les gens comme un individu et pas comme une. Pas juger à la façade, quoi. Et en France, c'est une catastrophe pour ça, quoi. Les gens veulent porter qui ils sont dans leurs vêtements, quoi. Du coup, c'est tragique pour le vêtement, c'est tragique pour la richesse humaine, c'est tragique pour plein de choses. Tu peux même pas jouer avec du costume, alors que c'est génial d'avoir plusieurs costumes, tu vois, de porter des différents vêtements. Il y a des jours, je m'habille en gothique. Là, j'ai l'impression d'être une corbeille d'agrumes dans la loge de Keith Richards. Ça, tu vois, c'est drôle. Tu changes, tu te mets plein de mots-clés et tu peux oser plein de trucs. J'ai toujours dit... Je m'habille comme je veux, c'est écrit nulle part dans la loi qu'il faut... C'est écrit où ? Pourquoi on me fait chier avec ça ? Et on m'a dit, c'est toi qui es chelou. J'ai dit, mais je suis pas chelou. C'est vous qui voulez à tout prix me coller l'étiquette chelou. C'est vous qui êtes englué dans une normalité qui a l'air de vous peser, parce que vous me faites remarquer que je suis chelou alors que j'ai pas été en tôle.
T'es pas hors de la société.
Je suis pas marginal du tout. Ou alors c'est que cette société n'accepte vraiment qu'un certain type de personne et est considérée comme marginale, bah, je sais pas, tous les gens qui sont quoi, qui sont... Ouais. Bon là je me suis un peu perdu, mais on va dire que c'est sûr qu'il y a toujours ce truc de case, voilà, et les gens se rendent dans des cases parce que c'est trop dur d'en sortir, parce qu'ils se disent « Ah bah, je vais pas réussir à Ken, je vais pas trouver de meuf de mec, je vais pas trouver de job. » Et il y a une telle pression sociale que du coup, plein de gens baissent les bras. Même moi, des fois, j'ai envie de raccrocher les gants. Je fais de la zig, je suis habillé chelou, je me dis « Putain, en étant en France, tu te fermes des portes. » Parce que direct, on associe plein d'images erronées sur toi, et souvent, c'est des trucs un peu méchants.
C'est très spécifique à la France, tu dis ?
Bah ouais, je rentre dans le train, les vieilles, elles mettent leur sac contre elles, tu vois. Je vais frapper personne. Ouais, c'est spécifique à la France, ouais.
Ok.
Tu vas Hollande, Allemagne, Angleterre et tout, les gens, ils sont beaucoup plus pisses. Ici, on a un pays où on a de la tension communautaire à bloc. Tu vois les débats sur le voile, la couleur de peau, les riches, les pauvres, les riches, ils sont toujours habillés comme dans les années Giscard, à lire le Figaro... Et être contre la PMA et tout, c'est un truc de ouf. Je me suis fait désosser mon vélo parce que je l'ai posé 10 secondes rive gauche dans un couloir de vieille, le jour de la grève. Et elle me dit, monsieur, c'est incivil de mettre votre vélo dans un couloir. Et j'ai dit, c'est incivil de crever les pneus et d'enlever les pédales d'un vélo un jour de grève alors qu'il est là depuis 2 heures seulement. Du coup, j'ai dit, cette anecdote, ça a été ok, d'accord, on est vraiment dans une nouvelle cassure de la fraternité... où c'est la guerre de tous contre tous, c'est Hobbes, the country, quoi. pour ceux qui ont un peu les rêves philo, justement. Thomas Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous, et voilà, quoi. Pour du coup, moi, dans cette guerre-là, je suis The Mandalorian.
Faut que tu te donnes la ref. Qu'est-ce que c'est que The Mandalorian ?
C'est la nouvelle série de Star Wars sur un tueur à gages qui vit seul et qui est hyper swagué et qui met toute sa thune dans son armure qui est faite de métal précieux. Du coup, dès qu'il voyage, il a toute sa richesse et sa puissance de combat qu'il porte sur lui. Et je suis pas du tout fan de Star Wars, ça me saoule de malade, mais ce truc-là est intéressant. On peut s'identifier à ça, chacun ses héros. Hein. Il y en a, c'est Staline, d'autres, c'est Édouard Philippe. Bah, c'est bon, quoi.
Édouard Philippe.
Bah, il y a bien des gens qui le kiffent.
Je sais pas, peut-être.
Bah, si, il représente le père de famille de droite, sérieux, un peu autoritaire, dont tous les Français fantasment. Stop.
Ah ouais.
Bah, bien sûr.
Putain, autant, tu vois, j'aurais dit, ok, Macron, qu'il y ait des gens qui kiffent.
Non,
Macron.
Je pense qu'il le kiffe beaucoup moins. Édouard Philippe, il a la tronche avec la petite barbe du gars qui a son break Volvo et tout. Je le trouve beaucoup plus genre archétypal. Macron, c'est une forme d'énergumène. Tu vois, il est assez unique en son genre. Il est hyper efféminé, maniéré, enfin, sensible. Il s'énerve jamais. Il a une maîtrise de lui qui est totalement à la fois genre super candide, mais en même temps super machiavélique. Et genre, il est super habile. C'est un animal politique... très fort là-dedans. Je ne juge pas sa politique, juste sa capacité, ses caractéristiques humaines.
Humaine, oui.
Tandis qu'Edouard Philippe, il fait beaucoup plus le français chef d'entreprise avec des poils, une montre et tout. Une montre un peu rush, mais pas trop, tu vois, genre...
Des poils.
Des poils qui sortent, oui, là, vois, qui comme les chirurgiens.
Les gens l'ont pas.
Un truc qui rassure, des poils sur les mains. Ouais.
Des poils sur les mains qui sortent un petit peu de la chemise.
De la chemise bien repassée, du pressing et tout. Genre, un gars qui va faire le pressing avec des chemises, c'est « Ah, je vais voter pour lui, parce que c'est rassurant. » Et tout ce qu'il y a hors de ça, ça fait toujours peur. Alors qu'en plus, le pays, là, on est clairement dans une... déconfiture totale, et au lieu de chercher des nouveaux modèles, on est encore jambon beurre église en disant on trouvera pas mieux, alors que si, on peut trouver mieux, tu vois. Donc, mon choix de vêtements, c'est une façon de dire ça.
On est parti très loin. Et c'est une bonne transition, parce qu'en fait, on parlait de politique, mais t'as fait Sciences Po.
Voilà.
Juste après ton bac.
Bah, je me suis dit,
qu'est-ce qui t'amène à Sciences Po ?
C'est hyper facile.
Deux.
Bah, c'est hyper simple en fait. Je me suis dit, ok, je gagnerai pas ma vie en étant batteur. Depuis que j'ai 12 ans, je vais me barrer du Nord-Pas-de-Calais, m'émanciper de mes parents, partir très vite. Mais il me faut du pèse. Il me faut du pèse. Mes parents étaient fauchés, en divorce et tout. Donc je veux vraiment pas faire les misérables, hein, parce qu'après, je viens quand même d'un background où assez bourgeois. Donc j'ai eu tous les codes. Pas la haute société, parce que maintenant j'ai vraiment vu ce que c'est la haute société. Ouais.
La petite bourgeoisie du Nord.
Donc j'avais les codes culturels, j'étais dans un lycée catho, même si je payais pas parce que mes parents étaient.
Abonnés.
Mon père a toujours été au chômage, je sais pas ce qu'il a fait. Et ma mère bossait, mais elle était journaliste, du coup elle avait une mini paye dans la presse équestre à Paris, elle bougeait tout le temps en bagnole et elle était payée que dalle, tu vois.
Ok.
Donc, du coup...
Là, en fait, tu te dis, pour sécuriser l'aspect d'argent, il faut que j'aille à Sciences Po.
Il faut que je fasse un truc qui est la classe et qui soit gratos.
Parce que c'est gratuit, c'est l'université.
Parce que c'est public, c'est un institut public où tu rentres sur concours, comme toutes les écoles publiques. C'est à Lille. Et c'est la classe. Et qu'avec ça... Je peux être funambule, clochard, j'aurais fait Sciences Po. La société arrêtera de me les briser sur faut faire ci, faut faire ça, soit comme ça, soit comme ci, tu vois.
Ok.
En faisant ça, je me suis dit, je vais me former mon cerveau, je serai un bon citoyen. Et je sais pas ce que je ferai après, mais au moins, je sais pas un trou du cul d'école de commerce, ni un fumeur de ouinge de fac publique. Désolé, hein, mais parce que ces stéréotypes dans la tête à 17 ans.
On vous fait coucou.
Tous coucou. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, mais il y a des archétypes.
C'était tes stéréotypes à toi de l'époque, c'est ça ?
Il y a des archétypes qui te font peur. Quand t'as 17 ans, tu te dis, qui suis-je ? Les écoles de commerce, je fais, maman, tout le monde fait ça, en fait. Parce que, genre, t'as un boulot de ouf après. On disait pas de ouf. T'as un boulot qui se balade après. Et genre, il y a des gens, il y a toutes les meufs mignonnes, elles font ça, et ça a l'air cool, tout le monde fait des concours pour ça, et t'as un emploi, mais gazi, garanti, maman. Elle me fait, ah bon, ça coûte combien? À l'époque, c'était 5 000, 6 000 euros par an, maintenant, c'est passé à 8 000. Mm. Et ma mère dit, bah, t'es ouf, j'ai pas les moyens, chérie, désolé, voilà. Donc du coup, moi, c'était...
Mais tes parents t'amènent pas vers, tu peux aller faire un emprunt. Parce que tu vois, typiquement, moi, mes parents, ils étaient... Alors pour beaucoup moins, je pense, cultivés que toi. Et ils m'ont juste dit, non, c'est trop cher. Et ils m'ont pas dit, en revanche, il y a moyen d'aller chercher un emprunt, quoi.
Exact.
Tu vois,
en Angleterre, tout le monde emprunte pour son avenir. Mm. J'étais très étonné de ça. Pour moi, c'était pas possible. On savait pas. Mes parents et l'argent, ça fait 8 000 ans.
Hein. Ouais, ça a l'air.
Ça a l'air de voir.
Moi, j'avais toujours eu 5 de moyenne en maths, très mauvais avec les chiffres. Et toujours aujourd'hui, je suis très mauvais avec les chiffres. Je suis vraiment quelqu'un qui est créatif, qui bosse non-stop. Mais voilà, faut m'aider là-dessus parce que ça, vraiment, c'est PMT, c'est les abréviations de c'est pas mon taf. Ouais.
Je connaissais pas.
Non, c'est
tes abréviations.
C'est à moi, ouais.
Ok. Donc ouais, Sciences Po, histoire d'être une sorte de beau gosse.
Du coup, je me suis dit, c'était trop tard. Je m'étais inscrit en fac de langue étrangère appliquée, vu qu'on m'a dit, ah bah t'aimes bien l'anglais, fais langue étrangère appliquée.
Putain, les conseillers d'orientation.
C'est nul de malade. Oh. À la fac publique, et voilà.
Ah donc t'as fait une...
Mais je m'étais inscrit à Lille 3, fac publique, en donc langue étrangère appliquée. Non.
Ok.
L'été, juste avant, j'étais saisonnier.
Ouais.
Où donc je louais des vélos à l'Île-Dieu.
Ok.
Donc je louais des vélos, je graissais des chaînes et je louais des vélos à des touristes pendant 2 mois.
Si vous voulez écouter une fabuleuse histoire sur l'Île-Dieu, rendez-vous dans le Boys Club.
Là où je m'étais dépucelé, voilà aussi. Et du coup. Et là, je me dis. Ah mais putain, en fait, Sciences Po, c'est cool. J'adorais quand même la géopolitique et ces trucs-là. Genre les conflits, j'étais fan, j'étais sur le cul avec le 11 septembre et tout.
Ok.
Et du coup, je m'intéressais au Moyen-Orient, l'Union Européenne. Et je m'étais dit, c'est quoi l'avenir? Ah d'accord, maintenant il y a une guerre des civilisations. Il y a la Chine, l'Inde qui monte. J'aimais bien regarder les reportages. Ma matière préférée, finalement, en fait, c'était plus la géographie. Le voyage, la Terre, essayer de comprendre l'être humain, la Terre et tout. Du coup, j'étais fan de géopolitique et j'ai vu que pour faire de la géopolitique, Sciences Po, c'était bien. Faire diplomate, et je me dis, bah vas-y, comme ça, au moins, genre, je sers des pognes et je voyage et j'apprends des langues et du coup, diplomate, c'est cool. Et je vois Sciences Po et en plus, je vois, ah, gratuit pour les boursiers, ouais, génial. Mais en fait, j'étais en retard pour m'inscrire dans toutes les prépas parce que je me suis pris toujours, moi, au dernier moment, comme un... Je suis vraiment un manche, quoi. Elle manche chaud. Et du coup, il était trop tard. Mais du coup, je suis arrivé avec mon grand sourire. J'ai fait le tour des facs, genre « Madame, s'il vous plaît, désolé, je veux trop faire Sciences Po, je me suis trompé, je me suis problème d'orientation, s'il vous plaît, donnez-moi une place. » « Ah mais monsieur, c'était il y a 9 mois qu'il fallait s'inscrire. 9 mois, mais comment je fais pour savoir ça ?»« Bah, demandez à vos parents. » Mais mes parents, ils avaient nos clous, ils étaient plus en train d'essayer de pas s'engueuler qu'autre chose, tu vois. Donc du coup, je savais pas, j'étais là, merde, j'ai fait tout. Et j'ai bassiné l'administration de la faculté catholique de Lille, où je pouvais avoir une bourse aussi, mais qui couvrait pas tout, mais il manquait genre 1500 balles, donc ça va encore, ça se trouve, pour rentrer en prépa, en licence éco-gestion, plus un module de prépa à côté de 5 heures par semaine, alors que la prépa full, c'était 40 heures par semaine de cours. Et nous, moi, j'avais 5 heures par semaine. Et tu faisais la prépa, tu couvrais tout le programme de la prépa en 3 ans, le temps d'une licence, en fait. Voilà. J'ai fait ça. Dès la première semaine, j'ai séché tous mes cours de licence éco-gestion. Je me suis enfermé à la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins de culture générale de Presse universitaire de France avec les jolies petites couvertures bicolores. Oula. J'ai lu tous les pufs, un par un. Stabiloté, tout. J'ai fait aucune teuf, j'ai fumé aucun joint, j'ai parlé à juste 2 potes. Il y avait un trotskiste et un gars du Cap d'Agde qui, on allait chez lui parce que sa mère lui ramenait des plats mijotés, du Nutella et du pain brioché, ok. Je faisais que ça. Et je me tapais une heure de route où je disais que les puffs. Et pendant un an, j'ai fait, vas-y, j'y vais en mode western. Et alléluia, quoi, j'ai eu le concours. Voilà.
Waouh.
Le seul de là, du module, personne n'avait eu le concours avant.
Oui, c'est sûr.
Personne n'a eu le concours autour de moi. Tout le monde se tapait des 3, des 4 et tout. Moi, je regarde mon nom. Tout le monde a 3, 4, recalé à tous les concours de tous les Sciences Po. C'était genre, ah bah normal, hein, t'es pas dans la foule prépa avec les as. Dans la foule prépa, c'était tous des premières de classe. Ils osaient, ils nous regardaient même pas dans les couloirs. Ils font, c'est les gens du module, les paysans. C'était vraiment en mode Harry Potter et moi, j'étais un
pouf souffle.
Un ratatouille, tu vois. Du coup, c'était, j'étais là genre, ok, et en fait, cette adversité, le fait de vouloir me bouger de chez WAM parce que la situation était relou, j'ai tout donné, quoi.
Comme mode sportif. La batterie.
Ouais, du coup, je faisais toujours de la batterie, mais même mon groupe, je leur ai dit, j'arrête. J'en ai marre du rock, de toute façon, ça pue, c'était mieux dans les années 70. Vous êtes sympa avec vos baggies, vos dreads et tout, et les joints, mais vraiment, c'est fini, là, hein.
On rentre dans la vraie vie.
Ça reviendra plus, c'est nul. Les Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, ils ont déjà fait des super albums, on fera jamais aussi bien qu'eux, tu vois. Ils étaient déjà boomers dans leur musique, quoi. J'étais déjà OK Boomer, hein, mes potes, à 18 ans.
Si vous avez pas la ref d'OK Boomer, je vous le mettrai un lien pour vous expliquer. Ça veut dire, en gros, okay, vieux con, quoi.
Ouais, vieux con, les gars du baby boom qui sont ouais. Là, les jeunes, ils sont tous sur leur portable. Et puis nous, avant, on écoutait de la vraie musique, pas eux se l'enfoirer, l'autotune. Bon. Et du coup...
Donc, t'as ton concours.
Et jusque-là... Et
en fait, t'as niqué le système. C'est-à-dire que juste, tu t'es dit, bah, je vais juste...
C'est un concours au mérite. Si je fais une super disserte en culture G, j'ai un bon niveau d'anglais. Et du coup, j'ai visé filière franco-britannique de l'IEP de Lille. Comme ça, je pouvais avoir... Le truc encore plus motivant, c'est que j'avais un bidiplôme avec l'Angleterre. Et moi, j'avais qu'une soif, c'était de me confronter à une autre culture. Et vu que j'étais fan de rock et de Led Zeppelin...
Franchement.
Et que moi aussi, je voulais être un batteur qui meurt dans son vomi comme John Bonham, le batteur de Led Zeppelin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, ça m'a supramotive, quoi. J'ai eu un genre, la flamma blanca, comme on dit. Et du coup, j'ai eu le concours. Sciences Po Paris, j'ai eu une note catastrophique. Mais j'avais tout mis sur ce concours, parce que comme ça, je pouvais rester à Lille et voir mes potes quand même, tu vois. J'étais attaché quand même. Et que ma mère disait, par contre, un appart à Paris, c'est impossible.
Oui,
hein.
Ça coûte des sous aussi. Quoi.
Et j'étais pas en mode, je vais faire toutes les démarches pour choper les aides et tout. T'sais, dès que j'allais sur des sites de l'administration avec des petits personnages qui ressemblent à un renard, mais fait par le dessinateur des trucs des églises, ça me faisait peur. Donc, du coup, j'étais nul là-dedans.
Je sais pas si vous avez cette rêve, mais je pense que je l'ai. Et c'est génial.
T'sais, les trucs genre Onicep, avec un petit hérisson. En 3D, en 2D, avec des oranges et verts qui fait « Salut, pour s'inscrire, c'est ici !» Et tu vois, tous les trucs comme ça, là, c'est... Quand t'es pas dans une culture avec des darons qui sont là, je connais la fac et tout, moi j'étais un peu livré à moi-même aussi, j'étais genre... Mes parents, ils sont là, c'est bien, il a pris son autonomie, du coup j'étais un peu seul tout, tu vois.
Ouais.
Mais c'est cool, parce que du coup, ça, je suis méga fort par rapport à plein de gens, mais du coup j'étais seul tout. Donc j'ai arraché ce concours... je me suis dit aussi, je me suis dit comme objectif, à la fin de l'année, je lis El País et The Economist sans regarder le dico une seule fois. Et je me suis mis des trucs supra vénères comme ça, je connaissais les puffs par cœur, les présocratiens, tout par cœur, tout.
Mais ça te vient d'où cette obsession? En fait, je pense que t'as cette obsession-là avec la musique aujourd'hui, c'était dans le même...
Tu veux tout connaître. Tu veux être chaud.
Ça vient d'où?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Et même en musique, hein,
sérieux?
Quand j'étais fan de métal, je connaissais tous les groupes, l'ingé son, le gars qui a designé la pochette, Bah, tu vois, tu sais, genre en mode turbo geek.
Ça vient d'où ce truc de geek, justement?
Je sais pas. Ouais. Mon père est un peu comme ça. Ouais. Il adore, genre par exemple, il est fan de rénovation de granges anglaises. Et il dit, ah, ça c'est tel type de pierre du Wensleydale. Alors qu'il a jamais foutu les pieds là-bas, tu vois.
Ok. Ouais, donc tu fais ton Sciences Po.
Ouais.
Et on va avancer un peu. Mais en fait, moi, je te rends compte quand tu t'inventes donc ce personnage.
Bah, Sciences Po, j'ai juste. C'était pour la première fois, je me suis dit, d'accord, en fait, on peut accomplir plein de choses dans la vie à force de travail, d'abnégation et en faisant les choses pour lesquelles t'es vraiment passionné. Parce que là où.
Grâce à ton concours, tu veux dire.
Ouais, quand tu fais des trucs où t'es passionné, tu deviens bon, en fait. Et je me suis dit, il y a plein de trucs que je déteste faire dans la vie. Donc autant que je travaille dans les trucs que j'aime bien, parce que comme ça, je fournirai un bon boulot. Et puis il y avait l'éthique protestante de Weber aussi, ça m'avait grave parlé, tu vois. J'étais là genre, le truc du paradis, tout ça, moi j'étais super athée, super vide. Mon père, il m'a toujours dit, de toute façon, la chrétienté, c'est une secte qui a réussi. C'est de la merde, c'est des trucs de secte. J'étais là, ok, donc en fait, tout est de la merde.
Pourquoi ça t'a parlé, l'éthique protestante ?
Eh bah bien, parce que tu gagnais ta place, ton bonheur sur Terre, en ayant une bonne éthique de travail.
Par le travail.
Par le travail, ouais.
No pain, no gain.
Et j'aimais bien ce truc de travail, je trouve ça noble toujours. Bon, même si maintenant je fais tout ça dans un truc plus musical, artistique, ouais, mais qui est un mélange d'ingénierie, d'artisanat et de créativité.
Ça travail fou, quoi.
Ouais. Mmh.
Tu m'as montré un jour sur ton ordinateur un morceau, et donc ton logiciel avec 192 pistes.
Ouais, sur chaque piste, il y a 8000 effets, donc c'est faire décoller un avion, quoi.
Tu te dis vraiment, le gars, il est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il doit tester tous les trucs.
Ouais.
Alors là, tu vois, je mettrais bien l'effet numéro 6760.
Ah, j'en place une à tous les gens qui disent que la musique est un hobby et pas un métier aussi.
Ouais.
Bah, vous pouvez vous mettre tous les principes bien profonds dans le huc, hein, parce que... C'est vraiment un manque de respect. En plus, le mot respect, je l'aime pas. En fait, j'ai été voir l'étymologie grecque. Spec, regarder. Regarder, en fait. Du coup, le respect, c'est quand tu vas coller un préjugé sur quelqu'un et que tu vas justement garder ce préjugé et jamais aller voir au-delà. C'est qui l'individu et la personne qui a au-delà de cette façade qui va juste concentrer tout plein de haine et de stéréotypes à la con, souvent.
Parlant de stéréotypes,
ouais.
Camelto, comment t'inventes Camelto? On en a jamais parlé, je pense, toi et moi.
Ah, c'est très simple, parce que dès que j'ai eu mon concours et les révisions, là j'étais là, putain, histoire des nationalismes au Nicaragua, plein de trucs universitaires comme ça à étudier. Du coup, très vite, une fois que t'as relevé un défi, ça c'est comme ça. J'étais déjà en mode next, tu vois.
Ouais.
Genre, ah ok, j'arrive à Sciences Po, pendant un mois, j'étais génial, j'arrive en Angleterre, c'était top, les Anglais et tout. Et puis très vite, ton euphorie, elle se déporte sur quelque chose, sur autre chose.
Ça devient ton quotidien, en fait,
ça devient mon quotidien, je fais, bon, bah en fait, on est 30. Salut, moi c'est Thomas, je viens de Rouen, ah t'as eu le concours aussi. Et tu rencontres des gens comme ça, et ça banalise ton exploit, tu vois.
Ouais, je comprends. Tout ça à cause de Thomas qui vient de Rouen.
Et tout ça à cause d'un Thomas qui vient de Rouen, qui me dit « t'aimes bien les flics-flacs ». Et tu vois, t'es là genre « ok, du coup, il y a le même... » Voilà, lui, il l'a eu aussi. Et genre, c'est normal dans sa famille parce qu'ils ont tous fait une grande truc. Et les gens sont là, je suis dégoûté d'être là, je voulais Sciences Po Paris, ça pue, Sciences Po Lille et tout, tu vois. Et du coup, le rêve s'étiole un peu, tu vois.
Ça m'a un peu fait pareil quand j'ai eu...
Alors, La flamme diminue.
J'ai eu mon diplôme et en fait quand j'ai vu que tous les autres blaireaux de ma promo avaient leur diplôme, je me suis dit, pff, en fait ça sert à rien.
Ah ouais.
Tout ça pour ça, aucun intérêt.
Moi quand j'ai vu ma note que j'étais pris, j'ai rien dit. Je suis sorti dehors, tu sais, comme dans les films avec un sub dans les oreilles et j'ai crié, quoi. J'ai dû avoir des éclairs qui sont sortis de ma bouche, je pense. Et après, du coup, après c'est salut monsieur Thomas, Rouen. T'es en quelle section? Et là tu dis, bon ok, je suis en mai, mais maintenant je suis juste un étudiant. Donc cool, je l'ai fait, mais maintenant j'avais plein d'autres trucs à régler maintenant.
Et donc cette histoire de
et
tout
donc
ça sort.
Je me suis dit, je me suis retrouvé dans ma chambre, j'ai revendu ma batterie.
Ah ouais?
Ma batterie acoustique, quoi. Bah ouais, j'étais dans une chambre de 8 mètres carrés.
Ah oui. Mais t'avais pas une batterie électronique?
Si, je me suis acheté une batterie électronique, mais très vite c'était nul.
Ah
ça remplacera jamais le plaisir d'une vraie batterie. Et c'est pas un truc de boomer qui va parler du bruit d'une Harley Davidson. Hein. Ok.
Non, c'est juste qu'il y a une question de sensation.
Le toucher nul, c'est mélange vraie femme poupée gonflable pour les hétéros, ok. Et j'ai jamais bouillave de poupée gonflable, donc je sais pas ce que c'est, ça me donne même pas envie. Donc, du coup, c'était pas possible. En plus, ça vaut genre 3000 balles une bonne poupée gonflable. Ah si, il y avait une start-up qui louait des poupées gonflables, genre hyper rush.
Ah, mais qui ressemblait vraiment... Ah non, c'était pas...
Quand j'étais en détresse sexuelle, j'ai failli y aller. J'étais là, genre, ça m'a... j'ai caressé l'idée, quoi. Ouais. Okay. Je sais, c'est hyper Black Mirror. On dirait trop c'est Black Mirror, n'est-ce pas? Et du coup, ouais, ils louent des poupées, ils sont là, elles sont bien nettoyées et tout. C'est trop... la science-fiction, la BD de SF, quoi.
Au secours.
Mélange futuro-glauque. Moi, j'aime bien, comme ça me fait marrer.
Ouais, je suis d'accord.
Je préfère dans une BD de SF futuro-glauque que dans Réacland, tu vois.
Alors attends, on est passé de Camelto à j'ai revendu ma batterie.
Bah voilà comment mon esprit fonctionne, oui. En escalier. Du coup, en gros, je fais je zigzague tout le temps,
ouais.
Comme une balle rebondissante, je le sais. Donc du coup, il faut que je me calme et je peux garder sur...
Si vous suivez toujours Victor.
Ouais, à l'écrit, je suis très... à l'écrit, je suis beaucoup plus calme. Ouais. Mais en oral, en plus, on s'aime bien, je suis excité, du coup, je parle de plein
c'est
de trucs.
C'est trop bien. Comment tu crées Camelto alors?
Parce que je commençais à m'ennuyer.
Ouais.
J'avais besoin d'humour. Tout le savoir que j'ingurgitais, j'étais là, putain, c'est un truc pour devenir député. Bah les couilles d'être député. Tu vois? Bah les couilles d'être fonctionnaire. Je veux pas être consultant. Il y en a, ils disent déjà, moi je veux faire de l'audit. Je commence déjà à leur dire, ah ouais, bah le management, ça veut, c'est juste un synonyme déguisé de plan social, FDP et tout, tu vois. Je commençais déjà à être véhément sur des trucs comme ça, à trouver que tout était, ça y est, tu rentrais dans un schéma normatif où on te bourrait le crâne pour être un bon soldat de la République et tout. Mmh. Et du coup, là, je me suis re-rebellé, quoi. Donc, au lieu d'écouter du métal, j'ai commencé à être créatif. Donc... j'ai commencé par faire des vidéos, après j'ai revendu ma batterie, j'ai trouvé un gars, je me suis acheté des synthés, des boîtes à rythme, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que, il fallait que je crée, avoir des bonnes notes, prouver à la société que j'étais quelqu'un de valable et intelligent, c'est un peu check, tu vois, mais plein d'autres gens peuvent y arriver.
Ah ouais.
Et du coup, il fallait que je crée, tout le temps.
Parce que donc là, tu commence à sortir un peu de la batterie et à te mettre dans une autre forme de musique, à produire vraiment de la musique.
Ouais, là j'ai revendu ma batterie et puis je me suis mis à la musique électronique parce que je pouvais tout faire dans ma chambre, seul.
Ok.
Ouais.
Je savais pas que t'en faisais déjà à cette époque-là en fait.
Si, si, j'ai démarré.
Ok.
J'ai démarré mais en troisième année.
Ok.
Mais comme Camelto, ça a pris du temps. Mais Camelto, j'avais vu que YouTube c'était la mode aux États-Unis.
Donc là, on est en, je pense, 2007, non?
Ouais, 2005, 2006. Ouais. Ouais. C'est la mode aux États-Unis et je vois qu'il y a des gens qui font des vidéos drôles, du coup, là-dessus. Et moi, j'aimais bien les vidéos drôles. Parce que j'aime bien faire des blagues, tout le temps.
Et donc, tu décides d'inventer ce personnage?
Parce que j'ai toujours mis vachement mon humour, mon intelligence, je préférais la mettre à contribution dans l'artistique et l'humour que dans apprendre des cours ou, tu vois... je trouvais ça plus beau. J'étais là, vas-y, je suis sur Terre. Je préfère mettre mon intelligence dans des trucs créatifs plutôt que de faire plaisir à mes grands-parents en étant cadre ou hyper riche, tu vois. Pour m'acheter une bagnole et choper une meuf vénale, tu vois, qui doit être le rêve de tout le monde. Genre, ouais, je suis moche. Comme ça, je vais faire des grosses études, gagner plein d'argent. Comme ça, je vais me taper une 10 sur 10, tu vois.
Une 10 sur 10.
Il y avait déjà ce genre de... Je sais pas, et puis en fait la politique ça, c'était pas très glamour quoi. En plus on était dans une léthargie idéologique à l'époque. Maintenant il y a plein de choses qui sont arrivées, il y a l'écologie, la déconstruction des genres, la pollution, la révolution urbaine, les néo-ruraux, tout ça. Il y a plein de super sujets à l'époque, c'était à part Oussama Ben Laden.
Ouais, c'est vrai.
J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Il commençait à avoir des délocalisations et des trucs comme ça, mais c'était moins genre tous les voyants rouges dans un sous-marin, tu vois.
Ça fait rire.
Donc je me suis mis à faire des vidéos drôles.
Ouais.
J'ai rencontré des potes à Sciences Po parce que ça, c'est bien, parce que tu rencontres des gens un peu gaulerie comme toi, un peu ce qu'on appelait chelou. Salut tout le monde qui appelle les gens chelou, chelou. Hein. Et du coup, tu rencontres d'autres gens qui sont qui ont des passions et qui sont un peu geeks. Et j'ai un pote qui commençait à faire un blog où il faisait des petites nouvelles de littérature.
Attends, comment il s'appelait ce blog?
Le Noyau.
Le Noyau. Le Noyau.biz.
Donc on demande à un pote qui était... On faisait des dessins. Moi, j'ai commencé à écrire des nouvelles un peu érotiques.
Genre... Ah, je savais pas que t'écrivais des nouvelles érotiques dedans.
Si.
Ok.
Ça me faisait marrer d'écrire des mélanges de films d'action, de SAS et de trucs érotiques. Et du coup, j'ai créé plein de trucs comme ça, des nouvelles érotiques. J'écrivais genre une petite BD qui était sur le petit-fils d'E.T. qui revient sur Terre parce que son grand-père, sur son lit de mort, lui dit « Il faut que t'accomplisses une dernière mission que j'ai pas pu faire sur Terre. C'est de Ken Drew Barrymore. J'étais à deux doigts de ça et elle a pas compris que mon doigt incandescent, tu dois lui mettre un wad. » Et c'était mon humour, tu vois.
On juge pas.
On juge pas. Même moi, je me
pas l'humour d'il y a 15 ans.
Je suis cancelled. Du coup, je faisais une petite BD là-dessus et du coup, l'extraterrestre arrivait sur Terre, mais il arrivait pas à Hollywood, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Et je faisais comme si j'avais un animal de compagnie et que je devais emmener E.T. jusqu'à Hollywood pour faire sa déclaration à Drew Barrymore. Et à l'époque, Drew Barrymore, comme Macaulay Culkin, elle avait des problèmes de drogue, de dépression et tout. Et du coup, je trouvais ça marrant d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Donc je commençais à écrire des trucs comme ça, mais ça, tout le monde s'en foutait. Genre, tout le monde s'en fout, là, aujourd'hui, aussi. Pauvre E.T. Et du coup, j'ai commencé... Et les textes, ça marchait pas. Mm. Je me suis dit, putain, il y a vraiment... Qui lit des textes?
Plein de gens, mais...
Je m'utilisais déjà, maintenant, le nouveau média, c'est juste la vidéo. Tu vois, les gens, c'est des gros paresseux de la life. Mm. Ils veulent du tout cru, de la vidéo, avec plein de couleurs et tout, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé... à me mettre en scène en faisant des vidéos. Voilà.
Mais tu fais pas que des vidéos, t'inventes ce personnage qui donc
bah oui, mais
on le disait au tout départ.
Quand tu fais des vidéos, t'inventes des personnages.
Non mais c'est pas un personnage. Enfin, je veux dire, il y avait 42 façons de faire Camelto et t'as décidé de faire Camelto en disant, en gros, c'est un petit gars de la Tess qui veut filer un coup de main.
Pas de la Tess.
Pas de la Tess de.
Je précise. Rural. J'ai jamais mis les pieds dans une Tess. Si je suis allé voir, enfin si je vais me visiter dans des cités aujourd'hui parce que je veux connaître la réalité sociologique.
Mais je le vois bien, c'est les petits gars avec qui j'ai grandi moi aussi, c'est les petits mecs comme
mais
tu
c'est
disais.
Juste des gars de la campagne sur des mobs qui écoutent du rap et qui parlent comme les rappeurs et qui fument des joints, c'est du ce qu'on appelle aux États-Unis des white trash, tu vois, genre.
Et qui filent, dont l'objectif en fait est de filer un coup de main à ses potos pour réussir le bac français.
C'est ça. J'ai toujours voulu concilier des objectifs pédagogiques avec. Ouais.
Mais c'est avec en ça que l'humour. Je te dis qu'il y avait vraiment plein de façons de créer Camelto et t'as décidé d'adopter cet angle-là. Et donc, bah, je vous mettrai des liens pour aller voir les vidéos de Camelto.
J'en ai enlevé plein.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Ah, pourquoi ?
Parce que je suis pas sûr de tout assumer vu que maintenant on parle beaucoup d'appropriation culturelle, etc.
Ouais, enfin.
Et que je me suis fait charger pour des trucs comme ça. Et mais après, c'est peut-être des gens mal intentionnés qui m'ont fait baliser là-dessus aussi, je sais pas, tu sais. En me disant, ouais, tu fais quand même, tu parles quand même avec une Kaira, et façon Kaira avec un Polo Lacoste, d'une culture, alors que t'as fait Sciences Po, je trouve ça problématique. Quoi. Et du coup, un jour, justement.
On appelle ça un personnage.
Et ben, un jour, je reviens, j'avais fumé un bédo, j'étais en full parano, et je repensais à ça en étant avec des potes de 20 ans, je leur montre les vidéos. J'ai fumé un peu de bédo avec eux, et du coup, moi, direct, ça me donne une genre giga crise d'angoisse et tout. Je suis là, genre, pourquoi la Terre tourne trop deep. Et du coup.
Faites attention avec la drogue, les
ouais,
enfants.
Ouais, c'est trop deep. Et du coup. En même temps, tu veux pas d'un enfant qui a jamais pris de drogue et qui fait. Non, c'est relou.
Je vais pas te dire ça parce que peut-être que mes filles vont écouter et je sais pas trop. Elles ont potentiellement des comportements addictifs, tu vois. Ouais. Donc...
Mais
je leur filerai les.
Mais tu peux pas. Tu peux pas empêcher de.
Ah non, mais c'est sûr.
Tu sais, l'esprit de contradiction français.
Je dis ça.
Mes potes qui étaient plus à fond dans la weed sont ceux dont les parents étaient les plus intolérants vis-à-vis de ça. Mm-hmm. Donc c'est genre très sournois. Et moi, j'ai pas d'enfant.
Je suis pas intolérant.
Je suis traumatisé.
Je suis pas intolérant.
Je sais pas
juste
comment faire.
Je vais pas leur dire tenez les enfants, voilà un pétard. En tout cas, je pense que je.
Faut créer des stratégies pour ne pas glamouriser un interdit, tu vois. C'est... Ça a l'air super machiavélique encore.
C'est mes bails dans quelques années. Ça arrive ça, très vite, je pense.
Bah, il faut qu'il y ait des gens cool, des grands refs, tu vois, pour leur parler de ça. Je pense pas que c'est aux parents. Le parent, non. Je sais pas si c'est la meilleure, tu vois. Il faut compartimenter les gens.
Faut bien les entourer.
Chacun a une fonction, tu vois. Faut pas tout attendre d'une même personne. Faut pas tout attendre des parents, franchement.
Ah non.
Surtout pas.
Horrible. Ouais. Surtout pas.
Et il faut leur lâcher la grappe. Comme ça, après, les enfants, ils sont grands.
Les petites sœurs, les grandes
sœurs. Ils vont chez le coiffeur, ils requennent, tout va bien, tu vois. Et donc, Camelto, je l'ai fait. Parce que... Et j'ai fait plein d'autres personnages, mais lui, il a fonctionné. Voilà.
Et
Parce que c'était un angle intéressant.
Non seulement c'est un angle intéressant, mais en plus, je pense que on regarde ton... Comment dire, on prend ton commentaire de texte, on le prend et en fait on vient le dire, on vient prendre toutes les idées que tu viens mettre dans tes vidéos pour venir passer l'oral sur Don Juan, si tu veux. En vrai, ça passe quoi.
Bah ouais,
ça marche trop bien.
En fait, j'adore l'écrire des dialogues, mais du coup j'étais dans. Après, j'allais voir des vrais commentaires de texte pro dans les bouquins. Donc c'était Don Juan, en effet. On a dit que le donjuanisme, c'était un grand séducteur, alors que non, ça c'est la surface. Le vrai sens caché, ce qui a du sens caché dans tout, bien sûr. Enfin, pas du sens caché, mais en tout cas une vérité pédagogique qu'il faut tirer de ce texte. Parce qu'en fait, la séduction, on s'en tape. Ce qu'il faut voir, c'est que il faisait du libertinage moral et social. Mmh. Et vu que c'était mal vu d'être un séducteur... Eh bien, lui, sa manière de dire fuck à la société, et Molière, il est génial pour ça, c'était de montrer quelqu'un qui, justement, était contre les codes de la société, qui trouvait déjà rigide, en fait. Déjà, Molière, on est dans une tradition d'aller à l'encontre des codes français. Du coup, quand je trouve que les gens trouvent ça toujours bizarre d'être un rebelle, alors que les grandes figures
de la littérature,
de notre patrimoine sont des casse-couilles. A déjà dire les codes. Du coup, les vieux réacs vieux, là, les boomers de rive gauche et tout, avec les qui sont anti-lesbiens, anti-tout, là, j'ai une boucle d'oreille, des cheveux colorés, ils ont l'impression que je suis genre. Que je symbolise la fin de l'humanité, tu vois, je le vois dans leurs yeux. La fin d'un monde. Ils soupirent quand ils me voient en levant les yeux au ciel. Il n'y a rien de plus vexant. En évitant soigneusement de me confronter, en plus. On peut même pas avoir de débat. Alors que si en plus j'adorerais parler avec des vieux, c'est ma passion. Déjà, dans ce cas-là, dans la culture, la grande culture qu'ils défendent, c'est que des rebelles et des marginaux et des... Enfin, tu vois, ça m'embête de ouf, ça. Voilà. Bref. Molière, c'était un critiqueur, laissez-nous critiquer tranquille.
Comment t'en viens Donc tu dis que tu commençais à composer de la musique, etc. Donc
ouais.
En gros, cette histoire de Camelto, tu vas faire plein de trucs en plus après avec Camelto, par la télé, etc.
On m'a proposé de faire une émission en W9.
Mec,
t'as tellement dans la première émission de Camille Combal. J'arrive à W9, on me dit faut enlever tous les gros mots maintenant. Donc direct, je fais... je suis plus bon. Si je peux pas dire de gros mots et pas... Parce que moi, je mets vraiment un soin particulier à ma prose, mon verbe, ce que je dis, mes métaphores, etc. J'aime bien avoir mon monde, ma patte.
C'est sacrément bien écrit. Hein.
Et là, direct, en plus, on m'a dit de plus parler de littérature, mais d'actu. Et du coup, tout de suite, c'était marrant parce qu'il y avait un conflit entre un langage, un argot de la rue, qui est un mélange de patois, d'argot issu de l'immigration, de gitan. Enfin, tu vois, c'est la richesse du langage, elle est là-dedans, en fait. Genre, c'est le 9-3, toutes les banlieues, qui apportent tous les nouveaux mots de la langue française. Les académiciens, c'est pas les vieux grabataires dans des immeubles en pierre blanche, là, qui font « Oh non, ouais, le courriel C'est les descendants d'immigrés genre nord-africains ou africains et tout. Vraiment, c'est les nouveaux mots, ça vient de là. Si on s'éclate autant avec de nouvelles expressions, ça vient de là-bas. Et même la fouine, quand il dit « t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi », c'est fort. Donc même si je suis pas fan de sa musique, mais genre tous les nouveaux mots, même lui aussi, c'est sans jaillir, tu vois, je suis en haut, calme, tous ces trucs-là. C'est dingue à quel point l'innovation... linguistique et culturelle vient de là, qu'on le veuille ou non.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc du coup, c'était passionnant de mélanger les deux. Et il y avait un vrai fond, en fait. C'est pour ça que je pense que ça a résonné dans la culture française à un certain moment. C'est qu'il y avait, il y avait un fond de vrai, quoi. Et après, ça a été dévoyé parce que j'ai dû parler d'actu, de W9, et qu'on me réduisait à une forme de clown, de pitre pour l'écran cathodique. Et j'étais là, je peux pas être un pitre. C'est ridicule, tu vois. Même si j'étais payé.
T'as pas fait très longtemps.
Ah non, j'ai dû faire 3 émissions et j'angoissais avant de le faire. C'est pas du tout mon rêve. Et puis, il y avait des gens de la télé, genre Camille Combal, des gens de la télé qui sont méga souriants, qui ont l'air d'être des fausses personnes. Tout est fausse personne. Il n'y a que des vieux avec des dents refaites qui sourient en te regardant avec, dès que tu fais des blagues, bite cul chatte et tout. J'étais une crise d'asthme, quoi. Donc, c'était pas à poste.
C'était pas ton...
Même si c'est le rêve de plein de gens, c'est pas ma culture, la télé aussi. C'est pas ça. Je me suis formé autrement. Voilà.
Et donc transition vers la musique, alors.
Transition, genre, je vais pas gagner ma vie avec ça. Parce que faire ça à la télé, ça va pas me rapporter d'argent. Donc, après mes études, je commence à faire de la musique électronique. Et là, du coup, bah, je refais le gros geekos, quoi. C'est-à-dire que je veux tout savoir. Je passe jusqu'à 3 heures du mat dessus tous les soirs. Je me réveille tôt pour apprendre et je me couche tous les... Et je fais toujours ça.
Encore aujourd'hui?
C'est-à-dire que je passe mon temps à essayer de progresser, m'améliorer, créer sans cesse pour arriver à une forme d'excellence que je me suis moi-même assigné, quoi.
Avant ça, tu fais Club Cheval, si je me trompe pas, c'est ça?
Ouais, ouais.
C'est là que tu démarres, c'est ça?
Encore des rencontres.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger le cul, faire des choses, rencontrer des gens. Parce que c'est vraiment dans le hasard des rencontres et des envies que naissent vraiment des belles vocations, quoi, à chaque fois. Parce que moi, la musique électronique, je connaissais pas trop. Pour moi, ça rimait avec David Guetta et des trucs horribles que je trouvais pas du tout cool. Et du coup, là, en rencontrant... Et puis, il y a eu une nouvelle scène de musique électronique alternative. Mmh. Et là, j'ai découvert la nuit, quoi. La club culture. J'étais là, putain, mais la musique, c'est que de la batterie. C'est que des drums avec une mélodie qui fait tu-tu-tu-lu. Tu-tu-tu-lu.
Donc, en gros, tu
et pas des accords méga complexes. Du coup, étant batteur, j'avais des théories harmoniques qui étaient pas ouf. Du coup, je fais, ah bah génial, je mets une petite corne de brume et le reste, je fais que de la batterie, mais avec des sons de boîte à rythme et tout. Et je peux faire danser les gens. Et je peux jouer dans des endroits où il y a des gens stylés, bien fringués et tout. Et j'ai découvert les hipsters. Et j'ai fait, waouh, je suis un hipster, en fait. Bon, maintenant, ils sont morts avec le quinquennat de Macron. Mais il y avait un truc alternatif qui était cool. Ouais. C'était genre, ah... t'es habillé avec des fringues fluo d'occasion, t'écoutes de la musique d'un mélange de punk et de musique électronique dance, et t'as une coupe chelou et tout, et bah voilà, c'était un nouveau mouvement, quoi. Et du coup, je suis rentré là-dedans, j'ai découvert les soirées, des gens habillés comme moi, qui écoutaient les mêmes groupes que moi, et là, ça y est, j'appartenais enfin à un groupe, quoi.
Waouh.
Ouais.
Et en fait, c'est quoi la transition entre le moment où tu te lances dans Club Cheval? Enfin, tu quittes Club Cheval et tu te lances, en solo?
On s'est rencontrés à quatre et le but, c'était de faire un peu comme le Club de Rome à l'époque, tu vois, comme les pères fondateurs de l'Union Européenne, où en fait, c'était un club de réflexion et d'échange de bons procédés.
Ok.
Sur la musique électronique. Parce qu'on s'est dit, bon, bah allez, il y a un truc qui se passe, on a des idées. De mélanger, par exemple, moi j'aimais bien mélanger des sonorités mystiques indiennes avec un truc house, tu vois. Et du coup, on s'entraide tous, tout en étant direct dans une forme de compète.
Entre vous?
Entre nous.
Ouais.
Donc vraiment sur le modèle d'une fédération d'État.
On revient à Sciences Po.
Ou toujours. Bah, j'étais fan d'Union Européenne et d'intégration européenne, tu vois, genre ça me fascine toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces peuples interreliés depuis des milliers d'années, tu vois, qui aiment les moulures, le café et les petites plantes dans les appartements. donc on commence à travailler ensemble. Donc chacun, moi par exemple, vu que j'étais fort en programmation pour les batteries, j'ai aidé les autres à faire les programmations pour les batteries. Mid, il avait fait une formation d'ingé son, du coup il nous aidait à bien mixer les morceaux. Sam Tiba que j'ai rencontré, lui il était fan de Baile Funk, Kuduro, des musiques de boîte de nuit, genre du Brésil, des trucs comme ça, de la musique ghetto, parce que pareil, la musique électronique ça vient toujours des ghettos. Donc je... Ça t'ouvre l'esprit, tu vois, dès que tu découvres d'où vient la culture. Elle vient rarement du haut. Elle vient jamais du haut, en fait. Les gens qui font haut, c'est, ils montrent les créateurs qui viennent d'origine plus modeste comme des petits singes en organisant des expos 100 ans plus tard, quoi, tu vois. C'est assez détestable comme processus. Et du coup, sur le moment, t'es juste pris pour un clown. Mm-hmm. Et du coup... moi, je découvre la musique électronique et tout devient noble, quoi, tu vois. De René Lataupe à Carl Craig à toute la dance, toute la musique électronique, du coup, direct, ça devient mon sujet d'étude, quoi.
Pourquoi tu dis que tout devient noble ? C'est-à-dire que pour toi, ça... Oui, c'est ça.
Je m'intéressais pas à cette musique.
Ok.
Pas tant que ça. À part à des trucs assez plus intello, genre Aphex Twin et des trucs comme ça, mais... Et là, je deviens fan de disco italienne des années 80.
Ah, génial.
Je rentre dans une période kitsch à fond. Je me mets à bosser à fond. Et j'étais en stage à la Commission européenne, à Bruxelles, vu que j'étais épris d'Europe. Et là, j'ai fait seul mon premier DJ set.
Quand t'étais stagiaire pour
j'étais
une soirée
stagiaire,
ou...
J'étais stagiaire, j'étais 3 mois à Londres, j'avais 0 pote, je me faisais chier, je finissais mon stage à 18h. Je me disais déjà, je bosserai pas à l'Union Européenne parce que c'est un truc technocratique vraiment où tu fais des études sur est-ce que les gens, les Européens sont-ils plus productifs quand il y a beaucoup de musées à côté de chez eux, tu vois.
Okay.
Des trucs comme ça. C'est important, mais c'est pas ce que je veux faire. Mm. Donc là, je fais, ah, encore raté, Dr. Jones. Et donc, du coup, je fais mon premier DJ set seul, parce que du coup, je passe un été à écouter de la disco italienne, faire de la musique dans la petite chambre que j'avais sous-louée à un pote à Bruxelles. Et en fait, je téléchargeais de la musique sur un blog où c'était que des...
N'oublie pas de parler d'entendre.
Ah oui, de la musique, du coup, l'Italo Disco, et je découvre que c'est, avec au hasard d'Internet, tu deviens geek de trucs super vite. Mm. C'était de la musique de Gay de San Francisco. Et tous les blogs, c'était des gays de San Francisco qui mettaient la discographie entière, des milliers d'albums d'Italo Disco en téléchargement. Et moi, j'étais fan de téléchargement. Et du coup, j'ai téléchargé plein de trucs, j'ai fabriqué un DJ set. Et vu que c'était que des trucs gays, tu vois, ça s'appelait genre Disco Boy avec un mec tout baraque, tout huilé. Et que des trucs pour des gay nights à San Francisco, d'Italo Disco et tout. Donc je me dis, c'est de la musique de la culture gay, en fait. Et moi, j'étais 100% hétérosexuel. Enfin, 100%, je sais pas, mais enfin, bref, voilà. Et en gros, du coup, je vais seul dans un bar gay pour dire, je veux faire un DJ set. Et le mec me dit, bah ouais, un Belge à Bruxelles, il me dit, bah viens vendredi. Donc j'arrive le vendredi, je mets mes trucs d'Italo. Et là, direct, il y a les clients qui commencent à faire « Eh, c'est nul, ton crin-crin, là ! T'as pas un truc plus moderne qui bouge comme du Lady Gaga ou du Black Eyed Peas, des trucs comme ça. » Et je dis « Bah non, mais je fais de l'Italo. » Et je me suis fait tâche.
Oh, merde.
Il m'a dit « Tu fais chier tout le monde avec ta zig de ringard. » Et je suis rentré tout seul.
Mauvais endroit, ceci dit, peut-être.
Ouais, et du coup, j'ai arrêté l'Italo.
Ah, okay.
Mais voilà, c'est ça en fait, c'est hit or miss, tu vois, c'est pas grave, j'étais là, ok, c'est un échec, ça, je me suis marré seul, et j'ai dit, c'est pas grave,
ok, et
je vais faire autre chose.
T'as fait quoi alors?
Du coup, j'ai arrêté d'écouter autant d'Italo, je me suis dit, en fait, bah, si ça plaît pas, je vais pas recommencer une deuxième fois, c'est pas grave, la musique électronique est un océan dont on ne peut connaître chaque crique, n'est-ce pas? Donc je vais aller à la crique d'à côté, et du coup, j'ai fait d'autres choses, et du coup... Pendant mes études, j'ai appris les logiciels, j'ai fait des centaines de tracks que j'osais faire écouter à personne pour progresser tout le temps, pas me taper la honte et croire que t'es un génie parce que t'as réussi à faire un truc en 2 secondes sur un ordinateur, tu vois, et me comparer à des trucs que je trouvais lourds, tu vois, enfin de bonne qualité. Je finis mes études, je fais 1 an dans la pub. parce que c'était facile. J'avais fait Camelto, je faisais des trucs. C'était l'époque où tout le monde, tu disais, ah ouais, je connais des buzz. C'était, bah, viens.
C'est vrai, putain.
C'est clair. Tu disais, ouais, je suis jeune, j'ai fait Sciences Po, et ouais, j'adore les buzz, je suis féru de buzz. Et vu que j'avais fait des vidéos drôles, j'ai eu un job très facilement dans la pub. Premier entretien, c'est bon. Et j'ai eu des facilités comme ça. Ça, c'est vrai. Et j'ai fait un an dans la pub et j'ai attendu que je joue assez en tant que Panthéros à sortir mes premiers morceaux sur Internet où ça a marché et tout. Très vite, je me couchais vraiment à 4h du mat tous les soirs pour faire des tutoriels, progresser tout le temps. Et du coup, j'ai attendu un espèce de point pivot où j'ai démissionné pour me lancer à fond dans la musique, quoi. Où là, j'ai dit, bah vas-y, nouveau plongeon, c'est parti, quoi. Et donc, je me suis lancé à corps perdu dans la musique et ça a marché.
Il y a combien de temps?
Bah là, ça va, 2020, ça va faire ma 10e année en tant que D2G.
Pour les ladies.
Mais donc, tu dis ça, mais tu t'es rentré dans un vrai circuit de DJ international.
Direct,
quoi.
Ouais.
Comment t'as fait?
Mais je sais pas, moi.
Tu sais pas quoi, tu disais pas.
Bah non, mais j'ai beaucoup bossé, j'essaye d'être malin, j'ai essayé de développer ma personnalité, d'apporter un propos unique et qualitatif, tu vois, comme ben, c'est question que je te dise.
Non, mais comment t'as fait pour trouver, je sais pas, un mec qui t'a fait tourner, qui t'a...
Mais parce que j'ai sorti mes morceaux et tout de suite, les gens, ils voulaient me voir.
Ah yes.
Ils écoutaient ma musique. Aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, il y a des mecs qui me disent « Hey Panthéros, au lycée, on écoutait ton son, on a poncé ton son, tout le lycée !» Et je suis là « Waouh, ça y est, j'en suis déjà arrivé là, quoi. »
Ah ouais.
Je suis comme moi, le groupe de métal que j'écoutais au lycée, ouais. Tu vois, qui donnait un sens à ma vie. Et les lycéens qui me disaient « Ah, tu nous faisais rêver avec genre tes cheveux bleus et ton son dance, apocalyptique et tout. » J'étais là genre « Ah ouais, putain. »
Ah, donc, t'es devenu un vieux déjà dans le...
Non, parce qu'il y a méga plus vieux.
Non, mais en fait, tu dis ça comme si c'était facile, parce que
non.
Quand on se parle de temps à autre au téléphone et tu me dis, alors tu vois, là je pars à Miami et puis après je suis au Japon, machin. Je suis là, oh putain.
Mais ça, c'est que les bons côtés du truc.
Doctor, il est passé. J'ai l'impression que ça a été
C'est simple.
Très vite.
Je m'endors, tu fais une crise d'angoisse. Tu te dis quand même, ça va bien, tu te réveilles tôt, tu bois plein de café, tu bosses. T'es pas content de tes morceaux. Tu peux avoir des mois où pendant 3 mois tu bosses comme un âne sur des morceaux et en fait ça pue, tu le jettes parce que tu sens pas le truc et t'es un peu ton propre maître d'œuvre quand t'es producteur. C'est à toi de décider le niveau d'excellence où tu veux arriver. Donc il y a énormément de baltringues qui se croient géniaux, mais c'est parce qu'en fait ils ont un niveau d'excellence qui est super bas. Du coup ils t'envoient les morceaux et plein de gens ils m'envoient des morceaux genre écoute mon son, ça tue, tout est là, écoute gros mec, ça tu vois. Du coup il faut une exigence de tous les jours. Le truc le plus dur, c'est ça, tu vois, les gens ils disent c'est génial, tu voyages, parce qu'en fait très vite quand je suis rentré dans les clubs j'ai dit c'est génial, les gens ils payent une entrée 20 balles, ils se bourrent la gueule, ou tu peux boire de l'eau, bref, voilà,
oui.
Message de prévention. Mais la club culture c'est important, faut pas avoir peur de dire que c'est aussi une musique de la fête. Moi les concerts ça me faisait chier parce qu'il y avait un truc passif où t'allais voir un groupe.
T'as fait des concerts, enfin avec Club Cheval, t'as fait des tournées.
Des concerts, des DJ sets, et moi j'ai découvert le milieu de la nuit, les boîtes de nuit, mais de manière hyper responsable, hein, tu vois. C'était juste, je trouvais ça génial, parce que je trouve que l'humanité se révèle plus la nuit que la journée, tu vois. Et du coup, ça c'était fascinant, donc c'était juste l'endroit où tu t'amuses, j'adore danser, tu fais de la zik, c'était top. Donc je me suis j'ai tout donné comme en prépa, tu vois.
Ouais.
C'est une prépa non-stop. Sauf que t'as pas le concours à la fin. mais c'est un peu cet état d'esprit, ouais. Et là, du coup, ça fait la 10e année que je faisais ça et j'ai ma notoriété moyenne. On est sur un underground confortable, mais voilà, pas plus. Et que là, pour passer un step, c'est pour ça que j'ai atomisé ma comfort zone.
On en revient.
Et que j'ai refait des morceaux pour aller signer aux États-Unis.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
C'est ton objectif.
Donc là, rêve américain.
Mais quand tu dis, ça veut dire que tu l'as fait?
Ouais.
Ah, ok.
Je me suis fixé un nouvel objectif.
On s'est pas vu depuis longtemps.
Ouais, non, mais je me suis enfermé pendant un an. Le label sur lequel j'ai fait partie pendant 6 ans en France a cessé d'exister. Ça s'appelait Bromance. on a vécu des trucs incroyables tous ensemble. Et en fait, dans la vie, il y a des cycles, quoi. Il y a des trucs que tu peux faire durer toute ta vie. Moi, je fais durer Panthéros toute ma vie, ou en tout cas, qui je suis sous ce format-là, tu vois. Mais... Et donc là, je me suis dit, d'accord, fin d'un cycle, du coup, il faut faire le deuil de fin de cycle. Se dire que, de toute façon, c'est... même si t'es nostalgique, parce que tu dis que ta situation, elle est plus pourrie maintenant, ça, c'est un piège, c'est pas ça d'avoir un mot. Enfin, on manque de mots pour parler de ces trucs-là, mais... espèce de... un cocktail de nostalgie, mélancolie et d'efficacité économique mélangé, tu vois, c'est horrible. Et du coup, tu te dis, bon, bah là, c'est la fin d'un cycle. Et là, je me suis réenfermé un an, j'ai changé à peu près ma musique que je faisais, pareil, pour me dire, bon, maintenant, le public a changé, je peux plus rester dans ma niche, dans l'underground et tout. Et du coup, j'ai voulu aller sur un gros label de musique électronique qui vient des États-Unis et j'ai poncé leur playlist, le son, et aussi se rendre assez unique pour qu'eux soient intéressés par toi. Parce que quand t'essaies de copier quelqu'un, c'est nul. Les êtres humains, les carrières artistiques, c'est pas des smartphones. Hein. C'est pas parce que t'es moins cher qu'on t'achète.
Ok.
Donc voilà, et du coup, là, j'ai réussi à aller signer un contrat avec la maison de disques que je visais. Donc là, je vais sortir mes morceaux, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai eu cette satisfaction personnelle. Parce qu'après, dès que ça marche moins, tu perds toute confiance en toi. Mmh. Parce que ton succès artistique est corrélé à ton estime de soi, tu vois. Quand t'es en CDI, planqué dans une boîte et tout, certes, t'es là, ma vie, elle est relou, je veux devenir je sais pas quoi, tu vois. Mais au moins, t'as une confiance en toi qui est pas indexée à ta réussite personnelle et artistique, tu vois. Du coup, quand t'as plus de date et que t'as plus de mail, t'es au troisième sous-sol.
Ça t'est arrivé, donc ?
Bah, bien sûr. Ouais. T'as des périodes de creux. Donc, c'est à toi de te dire, allez, vraiment, Rocky, Balboa, genre, allez, vas-y, là, les vieux, ils me font chier, vas-y, là, l'environnement, tout se mélange dans ta tête, et t'y vas, tu vois. Et tu repars, et tu réapprends à être inspiré, à te dire, ah, mais ça, j'aime bien... à refaire une introspection de comment je fais évoluer mon son, mon personnage et tout, quoi. Voilà.
Ok. Et donc, ça va faire une heure et demie qu'on parle.
Ah merde, bah t'es dit train.
Ah bah non, pas du tout. Quasiment pas. Train. Quasiment pas, mon vieux. En fait, on fera un nouvel épisode quand tu sortiras ton fucking long métrage. Parce qu'en fait, on n'a même pas parlé de ça.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Le mec... bah... donc tu viens d'enregistrer là, enfin de tourner.
Non, j'ai fait un court métrage.
Ton premier
j'ai
court métrage.
J'ai écrit un long métrage, ouais. Bah parce que justement j'ai manqué d'inspiration dans la musique. Je me suis dit peut-être que c'est une fin de cycle, tu vois. Des fois il y a des trucs, faut pas les forcer. Hein. Du coup, en attendant de retrouver le mojo en musique, je me suis dit bon bah je suis intéressé par pourquoi pas une forme d'expression cinématographique. J'ai des choses à dire. Parce que j'aime toujours écrire et j'aime bien observer les choses et les mettre en scène après. Pour, tu vois, Camelto, c'était ça, c'était une forme de patrimoine, tu vois, de glorifier l'argot plus la haute culture et de mélanger les deux. Et donc, très vite, je me suis dit, j'aimerais bien faire du cinoche. En fait, j'ai rencontré un producteur de cinéma qui était fan de Camelto.
On revient toujours à Camelto. Hein,
aussi, ouais. En me disant, ah mec, c'était trop bien écrit. Et j'étais là, bah merci, mais bon, j'ai arrêté parce que quand j'ai commencé à être DJ, les gens ils pensaient que c'était une blague.
C'est pas putain.
Tu vois,
ça c'est la France. On est obligé de te mettre dans une case.
Si t'es DJ, déjà, le fait que je sois pas d'école roulée et que j'ai des gros pecs et des cheveux longs avec des fausses dents qui sourient comme David Guetta, déjà t'es pas un vrai DJ, tu vois. Pour plein de gens. Du coup, c'est genre, c'est Caseland ici.
Ouais.
Du coup, j'ai dû arrêter Camelto. Mon manager, il a dit soit tu fais. T'arrêtes, en fait. Et il a eu raison.
Ah ouais, tu penses?
Ah, il m'a dit t'arrêtes si tu veux être pris au sérieux, avoir des dates, les programmateurs de trucs. Il faut qu'ils aient un. Il faut que tu sois crédible en tant que DJ. Après, il y a eu des groupes qui ont révolutionné le truc. Mais moi, mon but, c'était pas de révolutionner le DJing en étant humoriste et DJ, tu vois.
Ouais, je comprends.
Je m'en foutais, en vrai, d'être humoriste. L'humour, c'est un truc que j'adore, mais ma vraie passion première, c'est plus la musique. Tu vois, si je fais pas des blagues, j'en ferai tous les jours, quoi qu'il arrive. Mm. Mais si je fais pas 4 heures de musique, je suis pas bien.
Ok.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alors que des blagues, ça sort naturellement, tu vois. C'est...
Bon, on en a, là. Dans...
Enfin, non, mais voilà, c'est... Je me suis pas dit, mon rôle dans la vie, je préfère faire de la musique, voyager, que de faire des blagues, du stand-up et tout. En plus, je trouve que tous les humoristes, ils ont l'air vraiment déprimés. Après, ils ont des problèmes avec les femmes et tout. C'est chiant, quoi.
C'est... Et donc, t'as tourné ton premier court-métrage.
Donc, j'ai tourné mon premier court-métrage, ouais.
Parce qu'en gros, avant de tourner un long-métrage... les prods, ils te disent, mec, il faut que tu passes un peu par la case.
Ouais, bah c'est normal, il faut fabriquer les choses.
Parce que tu vas le réaliser. Enfin, tu vas réaliser ton long métrage.
Je réalise, ouais.
Donc ce qui est pas juste le mec qui écrit, quoi. Tu vas aussi.
Bah normal, parce que je l'imagine dans ma tête.
Dis pas normal. Il y a plein de scénaristes qui passent jamais derrière
la
caméra.
Ouais, c'est vrai. Bah moi, il veut ça de moi, mon producteur. Il m'a dit, et moi, je me range derrière les conseils des gens. Ça, pareil. Il y a des gens au bout d'un moment quand ils kiffent qui je suis et tout, ce qui est pas évident. Non mais c'est vrai.
Il faut comprendre.
Et qui voit, putain, il y a un vrai truc à façonner, tu vois. Et ben je leur fais confiance. Du coup, s'il dit à moi, je vois que t'es scénariste et réalisateur, ben je vais pas lui dire, je vais dire d'accord, ok, j'obéis.
Et donc t'as appris ça.
Donc j'ai appris, ouais. Donc ça fait 3 ans que ben, je veux geek du cinéma. Du coup, j'ai tout regardé de Éric Rohmer à tous les Français, du coup, Jean Vigo, Chris Marker, tu vois, toute ma culture élitiste de cinéma que j'avais pas, en fait, avant. Tout le cinéma d'auteur français, italien, américain, Frank Capra, les grands films des années 40, 50 et tout, tu vois, tout ça, je me suis fait ma culture avec des tutos YouTube, des podcasts, des bouquins commandés sur Internet d'occasion, des lectures de scénarios qui sont disponibles en PDF, grâce à la grande académie online pour les gens autodisciplinés qui s'appelle Internet, quoi. Voilà. Avec dans le but de créer des choses de toute façon, donc ça va me prendre plus de temps parce que le cinéma, c'est long. La musique est un truc plus instantané. Tu sors un morceau, tu corresponds à une envie du moment, pouf, ça y est. Mais le cinéma, c'est long, je gagne pas d'argent en faisant du cinéma, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fils d'eux dans le cinéma. Les parents autour de moi, ils comprennent pas que quand je leur ai dit que je travaillais sur un film, ils comprennent pas pourquoi 6 mois plus tard il est pas sorti.
Tes parents à toi, tu veux dire ?
Non, mais dans la famille. Ah. Je dois faire de l'éducation à des familles qui ont pas l'habitude de ce que c'est qu'une profession artistique. Ils te respectent pas. Tant que t'as pas rempli le Stade de France, que t'as fait l'Olympia ou que t'es à Cannes,
à ce point-là,
t'as pas réussi ton métier, tu vois.
Ah ouais.
J'ai l'impression que c'est un peu l'image qui me renvoie. Ouais. Mais du coup, moi, cette adversité, ça me booste toujours de toute façon.
Okay.
Finalement, donc je leur en veux pas, tu vois. Ça sert à rien d'en vouloir aux gens.
Putain, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus.
Voilà.
Tu reviendras, hein, Victor.
Bah, ok.
Pour nous parler de ta carrière dans le cinéma. J'ai tellement hâte.
Peut-être que je vais me gaufrer, mais c'est pas grave. Hein, je trouverai autre chose.
Bah, en fait, peu importe. C'est pour moi, en fait, que tu te gaufres ou pas, c'est le chemin. Il est trop intéressant.
En général, quand t'as envie de faire un truc, c'est que t'as, tu vois.
Surtout que t'as trouvé un prod qui...
Ouais, mais je suis long quand même, je suis relou.
Ah, mais t'as quand même trouvé un prod qui est connu, quoi. Tu
ouais,
vois.
Ouais. Bah ouais, mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein.
Je pense qu'on va plus dire ça.
Si t'es vinaigré, y a des questions à se poser. Hein. Voilà.
Ça fait 1h30 qu'on parle, c'est l'un des épisodes les plus longs qu'on ait fait, mais merci beaucoup, c'était trop bien, c'était vraiment passionnant. J'espère que les gens vont aimer. Je pense que les gens vont aimer.
Je sais pas, moi je...
Oui.
J'existe et puis après les gens, de toute façon, ils mettront des commentaires mal sur Internet.
Merci Victor, c'était trop cool.
Allez, tchuss.
Tchuss. On mettra... Et si vous voulez suivre Victor, je vous mets plein de liens. Si vous voulez suivre ses soirées, ses machins.
Ouais.
Sur Instagram et tout.
Ses soirées, putain.
Ses soirées, là.
Yannick.
Ouais.
De toute façon, c'est tout. Je l'avais déjà dit. Genre, je refuse que sur ma tombe, il soit écrit DJ, tu vois. C'est pas possible.
Disque jockey.